et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut, hello.
Et de Kefka.
Hey.
Alors, Garou n'est pas parmi nous cette semaine, on n'a pas de nouvelles.
Il est porté disparu.
On va faire une alerte en élément, je pense.
Ouais. Rendez-nous si Garou, lancez un hashtag sur les réseaux sociaux.
Exactement. Donc, libérez si Garou. Vous voyez Garou, dites-lui qu'on le cherche. Merci beaucoup.
Moi, je pense que c'est politique. À moins de 10 jours des présidentielles, on ne me fera pas croire que...
Alors,
Moi, je pense que c'est politique, mais c'est à cause des Elden Ring, quoi. C'est pas...
Ah, d'ailleurs, il va falloir qu'on prenne une décision pour la semaine prochaine, hein, parce qu'on tombe en pleine présidentielle.
Ah ouais. Si vous voulez faire une soirée spéciale élection.
Bref, donc cette semaine, vous l'aurez remarqué, pas de podcast Elden Ring. Alors, ATH est sur la fin, mais il n'a pas encore terminé et... On veut qu'il ait terminé pour donner notre avis. Moi, j'ai déjà terminé. Donc, ça y est, je suis enfin libéré. Je vais pouvoir jouer à autre chose.
T'es libéré de ton CDD.
C'est ça, exactement.
Tyran est plus fort que moi.
Moi, j'aurais dit... comment on appelle
ça ? Plus acharné.
Ouais,
c'est surtout
exactement.
Ça, c'est...
Plus acharné, ouais. Plus déter.
Ouais, je vais enfin pouvoir dormir normalement le soir. C'est ça, c'est beau, tu vois. Je vais avoir des nuits complètes. Plus besoin de se coucher à 2 ou 3 heures du mat. tout va bien. On va reprendre une vie normale. Bref. Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous aurons droit à du modding sur Half-Life. On enchaînera ensuite sur le tunnel. C'est l'heure du
qualité cette semaine.
Tunnel de quelqu'un, n'est-ce pas ?
Ouais.
Hein ? Un tunnel de qualité. Vous aurez notamment droit à un jeu où des gens sortent de l'anus des chats, mais je vous laisse découvrir.
On est dans l'artistique.
Tout à l'heure.
On est dans l'artistique.
Ça va être fabuleux.
Fabuleux.
On va parler des indés en général aussi, parce qu'il y a 2-3 sorties à venir qui sont intéressantes. On enchaînera ensuite sur Forspoken qui a dévoilé pas mal de gameplay. On parlera d'Insomniac qui sait se montrer reconnaissant, mais ça sera surtout l'occasion de parler des crédits dans les jeux vidéo d'une manière générale. On parlera de Breath of the Wild 2 qui a été repoussé à l'année prochaine. Et enfin, on terminera par un pompier chinois qui a réussi à terminer Elden Ring alors qu'il souffre de paralysie. Et oui,
ça c'est beau.
On commence, messieurs ?
Allez.
Donc, nous allons commencer par Half-Life Decay. Alors, qu'est-ce que c'est Half-Life Decay ? En fait, c'est pas un mode à la base, Half-Life Decay. À la base, Half-Life Decay, c'est une exclusivité PlayStation 2 qui avait été développée par Gearbox. Hein, Borderlands, tout ça, mais c'était avant que Borderlands n'existe d'ailleurs, hein. Et c'était donc un des fameux spin-off qui avait été développé à l'époque sur Half-Life, je vous rappelle, hein. Il y avait notamment aussi Opposing Force et Blue Shift. La particularité de cet épisode étant que il n'était pas sorti sur PC. Voilà. Alors, petite précision, ça fait belle lurette que cet épisode a été porté par les fans sur PC. La nouveauté, c'est qu'il faut savoir que cet épisode était orienté coopération, hein, donc c'est pas un jeu que tu peux faire tout seul, en fait. Et il se trouve qu'un fan a redéveloppé cet épisode en le rendant compatible avec un play solo, en fait. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir finir Half-Life Decay tout seul. Si vous aviez envie de le faire. Donc voilà, c'est un mode qui est sorti, qui est disponible. Donc je vous mettrai les liens, tout ça, pour pouvoir le tester. Ah. C'est disponible sur le site ModDB. Alors, de ce que j'ai compris, c'est juste une démo pour le moment qui est disponible. Et il faudra, sur Steam, il faudra aller le télécharger sur ModDB. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, je suis curieux de voir comment le fan s'est débrouillé pour rendre ça intéressant, parce que, mine de rien, rendre un jeu coop solo, bah, je pense que ça implique redévelopper pas mal de pans du jeu, n'est-ce pas ? Et ça revient à refaire un jeu, en fait, hein, carrément, donc curieux de voir ça. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire, messieurs, ou si nous enchaînons sur le tunnel.
Bon, c'est beau
avec
la passion, hein, qu'est-ce que tu veux dire ? Félicitations aux gens
qui... La passion,
qui...
c'est beau.
Voilà, la passion.
La passion.
Donc voilà.
On enchaîne, messieurs ?
Bah allez, hein.
Alors, c'est l'heure du Tunnel ouais. Avec ce cher Kefka. Kefka, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui?
Cette semaine, il y a de la qualité, on va se faire plaisir.
Alors on va déjà, commencer. Il y a la sélection de la communauté cette semaine. Ouais. On avait déjà parlé du jeu, mais on nous a rappelé qu'il était sorti. Donc il faut
ça,
en parler.
Beau. Alors allez, je te laisse parce que tu sais plus, à mon avis, tu connais mieux que moi de.
Alors, ce dont on va parler de Abermore.
C'est ça.
Abermore, pour rappel, c'est ce jeu où vous allez jouer un voleur. En fait, c'est-à-dire que vous allez.
Tif un peu, quoi.
Ouais, c'est ça.
FPS.
C'est un espèce de Tif mix Dishonored parce qu'il y a des pouvoirs aussi,
c'est
apparemment.
Ça. Et roguelite, quoi.
Et roguelite, parce que, en gros, vous allez jouer un voleur dans une capitale royale où, en gros, vous préparez le casse du siècle dans la chambre royale. Le truc, c'est que avant de pouvoir faire le casse du siècle dans la chambre royale, il va falloir se monter une type de PJ avec des capacités spéciales. Il va falloir se gagner du pognon pour financer ce casse-là, en fait. Il va falloir débloquer des compétences, etc. Bref, c'est un roguelike, enfin roguelite, qui va se dérouler sur 18 jours. Au bout de 18 jours, vous allez faire le casse principal. Mais avant ça, vous vous occupez avec différents casse et différentes missions générées aléatoirement. Donc apparemment, ça y est, il est sorti. Hein. Le souci, par contre, de ce que j'ai cru comprendre, mon cher Kefka, c'est que visiblement, il est un peu cassé, le jeu.
Ah ouais, voilà. J'ai truffé de bugs à ce qu'il passe. C'est tendu. C'est tendu, mais un peu drôle aussi.
Bah, ça, c'est... t'as envie de dire...
Bah les gars,
les gens,
vous
en fait,
l'avez sorti,
c'est
quoi.
Plus possible aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, t'as tellement de jeux dès qu'ils sortent maintenant.
Mais oui, quand
enfin,
tu vas voir le reste de la semaine.
Quoi, les
bah
gars.
Oui,
quoi.
Franchement. Franchement.
C'est... Surtout que c'est fait pour ça, en fait. Tu vois. Enfin, des fois, j'ai l'impression que les studios ne réalisent pas que. Bah, on est à une époque où t'as tellement de super jeu qui sort chaque semaine, etc., que même si tu es sur une niche où il n'y a pas beaucoup de concurrents, parce que c'est vrai que des Tifly, honnêtement, alors il y en a quelques-uns qui sortent une fois tous les 36 du mois, mais honnêtement...
C'est une niche, il y en a beaucoup qui sortent, hein, mais c'est vraiment
ouais,
des
c'est une niche,
jeux
c'est
de
une
merde.
Niche. Ouais, c'est une niche.
Non,
c'est super... Franchement, comparé au Metroidvania, c'est super niche, quoi, on va dire.
Ouais, ouais,
c'est
une niche
de ouf. Il y a plus de place, en tout cas.
En général, ceux qui sortent, c'est, tu vois, c'est pas les meilleurs jeux, quoi, en plus. C'est des trucs faits avec un vieux moteur 3D... dégueulasse.
Bah là c'est dommage parce que le jeu en plus était assez mignon, tu vois, enfin le concept était intéressant, mais si le jeu est buggé,
là en plus il y a des graphismes un peu cartoon
possible,
hein, pour le coup, même si en vue FPS ouais c'est un petit peu cartoon. Non c'est il voilà. y a du taf hein, mais bon, faut corriger les bugs, faut attendre, peut-être que ça aurait mérité de sortir un peu plus tard.
Donc, voilà. Alors après peut-être qu'ils avaient plus d'argent, tu vois.
Ouais, possible.
Mais justement,
mais dans ce cas-là tu sors en early access, tu vois, tu fais un accès anticipé, t'es un peu honnête. Il y a des possibilités aujourd'hui, enfin bref.
Oui, t'es transparent, tu dis écoutez, là, on doit continuer le développement, mais on n'a plus les sous, voilà ce qu'on a proposé, en fait, des retours, et puis voilà, quoi, tu vois.
C'est ça, puis, bon, il y a des jeux que j'ai pas sélectionnés, mais cette semaine, c'était chaud. Il y en a un, c'est Nightmare Reaper, je crois, le nom. C'est un espèce d'FPS roguelite, comme un, tu sais, graphisme Doom à l'ancienne, là, années 90, sauf que c'est en roguelite. Et,
d'accord.
Tu vois, ouais, lui, il a l'air de tuer. À choisir, j'aurais même plutôt choisi lui. Mais bon, voilà,
mais
après...
C'était le choix de la communauté,
c'était
et on
le
en
choix
avait
de
déjà
commune.
Parlé.
Voilà.
On en avait déjà parlé en plus,
c'est
donc
vrai,
c'était bien
vrai.
De revenir dessus, de faire le suivi.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que quand quoi, tu vois, des fois, il y a des jeux, on les regarde, on dit « putain, ça a l'air chouette », et ça sort, et c'est pas bien. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, dans
bah,
cette,
comme tous les jeux, en vrai. Hein. Il y a tous les jeux, on voit que des vidéos de gameplay et de
bah,
des bandes annonces, et donc nous, on n'a pas joué au jeu, en fait, la plupart du temps. Donc.
Ouais, donc c'est pour ça. En plus... Là, cette semaine, j'en ai testé 3 en plus sur la liste, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, il y en a tellement, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, en parlant de jeu, je vais le caser maintenant, du coup, peut-être, dont on a parlé, sauf si tu veux qu'on le garde pour la
non,
fin.
Vas-y, vas-y.
Il y a World West qui est sorti aussi cette semaine.
Ah oui, bah d'ailleurs, il est sorti sur Game Pass. Moi, je pense que c'est mon prochain jeu, en vrai. Parce que tu sais, j'ai besoin d'un jeu un peu fun, tu vois, tu peux faire des trucs rigolos.
Ouais, après.
Ça a l'air très rigolo, World West, donc... Donc, ouais, je le rappelle, c'est le jeu. Alors, j'ai enfin compris comment fonctionnait le jeu par rapport aux personnages, parce que je disais qu'il y avait des personnages débloqués. Mais en fait, c'est des personnages que tu vas débloquer au fur et à mesure de l'histoire. Et l'idée étant qu'avec les nouveaux personnages que tu vas débloquer, tu vas aller pouvoir aller chercher les anciens, en fait, que tu avais déjà rencontrés.
Okay, ouais.
Et ça donne des situations assez intéressantes. Voilà. Donc, Weird West a essayé. Les retours, pour le moment, pour le coup, sont très très positifs.
Bon, bah, c'est bien. Il est bien fini?
Il est bien fini. Le seul truc qui chafouine un peu, apparemment, c'est le fait que la caméra choisie, on va dire, pose des soucis par rapport au level design dans un immersive sim. Parce que, entre guillemets, je sais pas si c'est bon terme, mais elle spoil, quoi, si tu veux, cette caméra. Enfin, tu sais, tu peux, t'as pas les mêmes possibilités quand t'es la première personne et que tu peux cacher des trucs, enfin, des chemins ou de ce genre de choses dans des angles de vision mort, en fait. Hein. Et quand t'as une caméra du dessus, tu vois tout.
Ouais. Ouais.
Forcément, d'un point de vue level design, c'est beaucoup plus... c'est un peu moins intéressant.
Bah déjà, c'est pas une caméra immersive du tout. Tu te mets pas à la place du personnage quand tu le vois de haut, comme ça.
Et l'autre point noir, apparemment, attention à ceux qui veulent jouer au pad, apparemment, les combats sont beaucoup plus agréables à la souris, au clavier souris que à la manette. Et je rappelle que c'est les combats, c'est un peu twin stick shooter, tu vois, c'est un peu dommage, quoi.
Ouais, LKBD nous rappelle dans le chat qu'on a une IA qui manque de réactivité, apparemment.
Oui, moi aussi, mais ça, j'ai envie de dire, hélas.
Ouais, c'est pas...
C'est tellement le cas de... Tu sais, c'est tellement devenu un standard aujourd'hui. Mais c'est un peu dommage. C'est vrai, surtout dans un immersive film comme ça, où il y aurait moyen de faire des choses marrantes avec l'IA, quoi.
Et en parlant mais de choses marrantes, tu m'offres la transition parfaite pour la suite.
On en reparlera de toute façon, parce que je pense 4C4... peut-être pas un test, mais en tout cas, si jamais il me tombe des mains, j'en parlerai, c'est sûr. Et si jamais je termine, ben, on fera un test.
On parlera peut-être aussi. Donc voilà. Dans tous les cas, il y a des chances que tu nous en parles.
Exactement. Mon cher Kefka, excuse-moi.
Allez, transition, parce que tu parlais de choses marrantes. On va parler d'un jeu qui s'appelle Terrorbane. Et dans Terrorbane, le mot important, c'est le mot error. Parce que ça se présente comme... Alors, le trailer est excellent, parce que c'est le développeur qui nous parle et qui nous dit qu'il vous a sorti son nouveau JRPG Terrorbane. Et en fait, donc déjà, matez le trailer, les gens, parce que ça vaut le coup, le trailer de Terrorbane. Il est super bien fait. Et donc, en fait, ça va être un JRPG, mais comme vous allez le voir si vous matez le trailer, donc, alors JRPG en 2D, graphisme, Dragon Quest, Final Fantasy, époque 16 bits environ. Et vous avez, en fait, quand vous voyez le jeu, vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, il y a des bugs de partout, le jeu, il a l'air glitché, il est glitché, en fait. Mais il est glitché volontairement, ça fait un peu penser... à ces jeux méta comme les jeux There Is No Game. Ouais, voilà. Ça fait un peu penser à ça. Et donc, en fait, le JRPG, pour le finir, vous allez devoir utiliser les glitches. Et il y a énormément de blagues et de références pour tous ceux qui ont poncé les JRPG. Donc, je pensais à toi, surtout le tyran, qu'on a poncé une certaine quantité astronomique. Parce que ça joue un peu avec les poncifs. Tu vois, à un moment, on a tous eu dans ces vieux jeux-là une attaque un peu cheatée qu'on spammait, qu'on utilisait tout le temps parce qu'elle est trop efficace. Et à un moment, tu vois, dans le trailer, il fait une attaque à l'épée qui détruit tout le monde. Il le refait. Et tu vois, il y a écrit « Bug, too much sword ». Tu vois, c'est des blagues comme ça qui parleront à ceux qu'on... Ouais, quand t'as surabusé une technique parce que c'était pas équilibré, tout simplement, parce qu'elle était trop bien. Bah voilà, c'est un petit peu ce genre ce genre d'humour.
Bah, en tout cas, moi, ça me parle. En plus, le jeu a vraiment une chouette DA, je trouve. Parce que, faut pas croire, Alors, c'est marrant parce qu'il adopte un peu le style de pixel art des Final Fantasy à l'ancienne, c'est-à-dire que
c'est ça.
Les boss sont super détaillés, tu vois, t'as les personnages classiques des persos, eux, ils sont assez simplistes dans leur représentation, donc c'est assez marrant.
C'est vrai que c'est comme les vieux FF de FF4, FF6, ce genre de trucs, ouais.
Exactement. En combat.
Et vous avez des trucs un peu pour imaginer, vous êtes contre un boss, et tout d'un coup, le boss, il saute vers le haut de l'écran, et il descend une espèce de fenêtre, et là, vous voyez des lignes de code à la... tu sais, à la console, quoi, console Linux ou Windows, enfin ce genre de truc, les terminaux. Et du coup, bon, bah, vous allez être dans ce genre d'humour. Donc, il a l'air assez stylé.
Et puis, bon, il fait pas que du RPG, il y a des passages où tu vois,
c'est
du Mario,
jeu de cartes, ouais, c'est ça.
Secret of Mana, etc. Bon,
ouais.
Il y a du choix, voilà.
Ouais. Mais je pense que ça parodie un peu tous les JRPG de cette époque avec. Donc, lui, c'est sûr qu'il est sur ma liste.
Exactement. Donc, nous enchaînons.
Ouais, on reste dans le loufoque un petit peu, mais là, le loufoque un peu mignon. Et je pense que c'est ce jeu-là qui t'a un peu traumatisé dans le trailer.
Ah, moi, il m'a... Alors, attendez, là, parce que regardez bien le début de la vidéo. Hein. Donc, effectivement, vous ne rêvez pas, messieurs, dames, le personnage sort bien de la nuit d'un chat. Donc, voilà, ça vous donne tout de suite le ton et l'ambiance. Alors, c'est quoi ce jeu, mon cher quelqu'un?
Alors, donc, pour les gens qui n'ont pas la vidéo, c'est un point and click. C'est un point and click en 2D, très joli avec des beaux dessins. Comment on pourrait décrire les graphismes, mon tyran, dis-moi là. Comment mignon, coloré, là, pastel.
Bah surtout, moi, je pense qu'il faudrait. Moi, ça me fait penser au Samorost en termes de rendu. Tous les jeux Amanita Design, mais en vraiment perché, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. Faut imaginer des graphismes colorés, dessinés un peu à la main. Le personnage fait un petit peu penser à. Tu sais, à ces personnages de dessins animés. Genre, j'arrive pas à en citer un, mais les dessins animés américains, un petit peu.
Ouais, Bob l'éponge,
peut-être, ouais.
Hey Arnold, les conneries
ce
comme
genre de, ouais, mais en un petit peu plus mignon. Ouais. Et du coup, donc, vous avez un point and click, c'est un point and click, donc l'univers est un peu barré. Ça s'appelle Cathy in Mew Mew Land, je sais pas si j'ai donné le titre du jeu d'ailleurs. Cathy in Mew Mew Land, et donc c'est une parodie d'Alice au Pays des Merveilles, avec des chats et d'autres créatures, donc c'est basé sur l'humour aussi, loufoque. Puis alors un point and click avec des énigmes loufoques comme ça, à mon avis... Il y a de quoi passer un bon moment.
Voilà.
Ouais, bon. J'avais noté que c'était entre Machinarium et Chouchelle. Ouais, Chouchelle aussi, c'était un point and click un peu loufoque que j'avais bien, bien apprécié à l'époque. En tout cas, il a l'air assez rafraîchissant.
Donc, comment dire, si vous avez envie de jouer à quelque chose de barré, je pense que c'est une bonne idée parce que ça a l'air très très bizarre en tout cas.
Ouais, c'est clair. Après, j'espère que les énigmes ne seront pas chiantes parce que bon. Si l'univers est barré et que du coup, pour résoudre des énigmes, faire des trucs vraiment trop étranges que tu peux pas deviner, ça devient vite lourd. Donc j'espère que c'est bien fait à ce niveau-là.
Bon, après, en général, sur les point and click de ces dernières années, c'est plus trop quelque chose qu'on voit. Honnêtement, même souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que très souvent, ouais. C'est un peu trop facile. Enfin, je dis ça alors je déteste les point and click. Hein, mais
En tout cas, à choisir, vaut mieux trop facile que... Tu vois que trop dur pour rien, quoi. Parce qu'un point and click, oui. La difficulté, là, c'est pas ton skill, hein. C'est vraiment...
ton cerveau, voilà.
Ton cerveau, et
si
encore,
ton cerveau,
c'est,
merde comme moi, bah,
c'est
tu,
plutôt
tu
le mind game. Est-ce que tu comprends comment les développeurs raisonnent? C'est plus ça, des
c'est
fois.
C'est ça. Bon, nous allons maintenant parler d'un jeu d'horreur, je crois.
Ouais, horreur psychologique, vu à la première personne. Alors, je sais pas si ça nous vient du Japon, mais l'univers qu'il représente est japonais, donc ça m'a un peu fait penser à Ghostwire Tokyo, mais c'est un peu le
alors,
contre-pied.
Juste,
hein.
Je viens de me rendre compte d'un truc. Abermore, c'était PC seulement. Terrorbane, c'est Steam et Switch.
Ouais, c'est vrai.
Qui est sorti.
Ouais.
Cathy and Mew Mew Land, c'est sur PS4, One, Switch et PC.
Ouais, tous les supports de voilà. L'univers.
Il y a pas encore les consoles Next Gen, je crois. J'ai pas la... En tout cas, je les ai
ah,
pas
oui.
Vu sur l'annonce.
Oui, mais... oui, c'est vrai. Mais il y a pas une rétro. Compatibilité.
Oui, oui, donc normalement ça devrait marcher.
Normalement
oui,
ça passe, hein. Normalement,
oui,
ça
normalement
passe.
Ça passe. Tu as raison.
Enfin, c'est dur
ouais,
de pas y jouer,
renom
quoi.
À Ikai, jeu d'horreur à la première personne.
Ikai, ouais, donc jeu d'horreur psychologique en vue à la première personne. Univers japonais, assez lent. Le but, en fait, ici, c'est. Donc, vous allez. Ça représente l'univers des yokai, ces créatures du folklore japonais. Et en fait, le but ici, ça va être de. Alors, de ce que j'ai vu du gameplay, tu vas avoir des espèces de sauts, là on le voit dans le trailer, et il va falloir essayer de reproduire le saut pour sceller les ennemis, du coup, sans se faire perturber par le son, l'ambiance du jeu.
J'ai essayé de chercher une séquence de gameplay un peu plus longue, parce qu'il y en a pour le coup des très longues sur YouTube, j'avais vu ça.
Ah bah oui, c'est ça, l'avantage avec les jeux qui sont sortis, c'est qu'au moins, t'as toujours des gens qu'on peut y jouer un petit peu, quoi.
Voilà. Donc, moi, je sais pas pour... Moi, ça me fait penser un peu à du Project Zero.
Ouais, les jeux comme ça, les Fatal Frame...
Exactement, voilà. Donc, curieux. De toute façon, les Japonais, ils savent faire des...
Alors, je sais pas si
ça.
Le jeu est japonais, par contre, j'ai pas réussi à trouver l'info. Mais, en tout cas, il est dans un univers...
Il est vraiment
japonais.
Dans l'esprit.
Ah, ouais, dans l'esprit. C'est... Yokai, vous avez, voilà, vous pouvez pas vous tromper. Si vous aimez bien ce genre de... Puis là, vous avez le temps de les observer, les yokai, vu que le jeu est lent. Hein. C'est pas une histoire de...
Oui, regardez, là, vous voyez, il met 3 heures à ouvrir une porte. Ça, c'est pas...
Voilà.
C'est pas un jeu d'action rapide. Voilà.
Pas du tout. Voilà. C'est vraiment l'ambiance et... Donc, je sais pas, après, à voir hein, si ça peut vous parler.
Bah, après, c'est toujours le même problème avec ces jeux. Hein. Est-ce que c'est réussi ou pas?
Ouais, voilà. C'est ça.
Est-ce qu'on arrive à te suggérer l'horreur et c'est ça qui fait que t'as peur plutôt que faire des bons gros jumpscares qui ne marchent plus à force d'être
ouais,
utilisés.
Ouais. Qui est un outil voilà. Vraiment un peu bas de gamme, le jumpscare.
Voilà, donc à voir. En tout cas, c'est intéressant et c'est vraiment dans l'ambiance. Là, vous voyez, en plus, on est dans une maison japonaise traditionnelle et tout. Enfin, c'est un peu des paysans aussi. Donc, à voir.
Ouais, pourquoi pas.
Bref. Nous allons enchaîner, mon cher.
Ouais, sans transition, cette fois-ci, on passe à Coromon.
Ah oui, et encore une fois, juste précision, ça sort sur tous les supports de l'univers, pour le coup. Donc, voilà. C'est disponible partout.
Ikai, vous pouvez y jouer.
Coromon, donc.
Coromon. Alors, Coromon, hein, le nom t'indique un peu ce que c'est. On en parlait, en plus, c'est marrant, parce qu'on parlait la semaine dernière d'histoire de propriété intellectuelle, etc. Donc là, vous avez un Pokémon-like.
Ouais, pour le coup, il se cache pas. Hein. C'est
il se cache pas. Les graphismes, t'as vu les petits smileys au-dessus des personnages, tout ça me fait un peu penser à Golden Sun sur GBA, même les villes, etc.
Effectivement.
Ça me fait un petit peu. Ce qui est un compliment.
Même
hein,
le rendu du jeu, hein, d'une manière générale, il a un rendu très GBA, je trouve.
Ouais, il a un rendu totalement GBA. Donc vous avez un Pokémon vraiment entre guillemets formule à l'ancienne, avec un pixel art mais d'une haute qualité, vraiment magnifique. Les combats, enfin là, tu vois un combat, tu vois le background, c'est du pixel super beau. Tu vois les deux créatures, elles sont en haute densité, les animations sont magnifiques. C'est un système tour par tour, qu'utilise pas les PP hein, comme le système de Pokémon classique. Il utilise plutôt un système d'endurance, je crois. Donc,
l'intérêt du jeu... customiser les stats des Pokémon.
Tu peux tout customiser.
Ouais.
Tu peux customiser ton expérience. Je crois que tu peux désactiver les combats aléatoires. Enfin, tu fais vraiment ce que tu veux. Il a l'air assez cool de ce point de vue-là. Vous avez du combat en ligne, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc, est-ce qu'il est orienté presque plus PVP? Je sais pas. En tout cas, il a l'air super beau. Il est dispo sur Switch aussi. Switch et PC. Donc, franchement... si Arceus, c'est pas votre truc et que vous êtes plus ancienne formule, mais que d'un autre côté, l'ancienne formule, bon, vous la voulez un petit peu différente, ben là, déjà, vous avez
surtout,
un jeu super beau.
Si vous êtes un joueur PC et que, bon, ben...
ah oui,
vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion de jouer à Pokémon à part en émulation, tu vois. Pourquoi pas, hein, écoute, moi j'ai suffisamment dit que c'était con qu'il n'y ait pas plus de gens qui copient Nintendo hein, sur les autres supports, parce qu'il y a de quoi faire quoi, dans le cas de Nintendo à pomper. Hein, donc, alors moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça, sauf si... alors ce qui pourrait m'intéresser, si vous, c'est s'ils mettent une vraie histoire et quelque chose d'intéressant, tu vois, éventuellement.
Apparemment, le scénar est travaillé, d'après ce qu'ils vendent.
D'accord, bah, déjà, ça, c'est si le scénar est travaillé est vraiment intéressant, ça peut être un super plus. Après, moi, vous savez, le Pokémon ancienne formule, moi, je sature un peu personnellement, donc, mais pourquoi pas, hein, si vous êtes amateur de l'ancienne formule, ça peut être un bon choix, surtout qu'effectivement, pour le coup, c'est un jeu qui a... Enfin, tu sais, ça fait pas Pokémon sur Wish.com, quoi, tu vois.
Ah non, pour moi, c'est plus beau que n'importe quel...
sur les sprites, quoi. Enfin,
pour moi, c'est plus beau que n'importe quel Pokémon sorti en 2D en pixel jusqu'ici. Hein. Regarde, même en termes de goût des créatures, je les trouve vraiment...
Bah, disons qu'ils n'ont pas cette restriction qu'à Pokémon, même si Pokémon s'en est un peu départi au fil des années, mais tu sens qu'ils ne se retirent pas la possibilité de faire des trucs vraiment chelous qui n'ont rien à voir avec des animaux, en fait, quoi.
Voilà. Ouais, c'est
si
clair.
Ouais. Encore une fois, dans Pokémon... il y a des Pokémon chelous, hein, attention. Hein,
bien sûr, bah ouais, carrément.
Tout ça, voilà. Mais disons
les
que...
les sacs de nœuds,
voilà, les sacs de nœuds, etc. Mais disons que le canon de Pokémon, c'est de faire des créatures crédibles, tu vois, qui... enfin, vraisemblables, alors que là, tu sens qu'ils sont un peu plus freestyle, quoi, de base.
Mais je trouve qu'on reste dans le bon goût, parce que t'as quand même des oiseaux, t'as quand même... t'as un chien à deux têtes qui est super stylé.
Même les créatures qui sont un peu bizarroïdes, elles sont stylées, je trouve, hein, honnêtement.
T'as des évolutions qui ont l'air aussi bien faites dans un beau pixel. Non, franchement, il a l'air bien sympa si la formule peut vous parler.
Tout à fait. Donc, c'est disponible sur PC et Switch.
Voilà.
Donc, pas de jaloux. Bonne chance à eux. Alors, maintenant, on va passer au jeu auquel tu as joué, mon cher
Pika. Ouais, auquel j'ai joué plusieurs heures. Et franchement, les trois, c'était cool.
On va commencer avec un jeu qui est vraiment stylé visuellement.
Ah ouais.
Ça s'appelle Jitsu Squad. Alors, ce que c'est.
Ah ouais, petite anecdote en plus sur ce jeu. Donc, c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 4. Et j'ai réussi à réunir ma copine, mon cousin et ma mère sur le jeu tout à l'heure pour y jouer plusieurs heures. Donc, c'est vraiment un jeu qui peut s'adresser à tout le monde. En fait, il a pas mal de... Déjà, les 4 persos sont super stylés. Vous en avez un, il ressemble un peu... Alors, les graphismes, hein, donc Beat'em Up 2D, c'est des graphismes... dessin animé, j'ai envie de dire. Dessin animé, l'animation, elle est superbe. Le seul défaut, c'est que du coup, c'est des fois un petit peu brouillon, mais vu que l'animation, elle est super bien, franchement, ça passe. Les personnages, mais ils transpirent tous le style. Le perso principal, il s'appelle Hero, déjà pour te dire comment... et il ressemble à Fly, si vous connaissez le manga Fly... un vieux manga des années 90. Je crois qu'ils ont
fait
une série
Quest,
il y a pas longtemps.
C'est Dragon Quest, en fait, Fly. Hein,
en plus, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le manga, ouais, c'est exactement ça. Sauf que là, il a une... il est un peu, ouais, il peut se transformer. Alors, en plus, vous avez des transformations. Quand vous avez, en fait, vous avez des trois types de gemmes. Gemme bleue pour la vie, gemme rouge pour les pouvoirs, et gemme jaune pour l'arme secondaire que vous équipez. Parce que quand tu ramasses des armes dans celui-là, chaque perso a ses armes, en fait. C'est pas comme dans un Street of Rage où tu peux ramasser une batte et tout le monde peut la ramasser. Chaque personnage, par exemple, le perso Fly, lui, vu qu'il a une épée, il peut ramasser un katana, une épée en flamme. J'ai pas vu sa troisième arme, je me souviens plus. Et donc chaque perso a vraiment un style différent. Et vous avez du coup un pouvoir à la Street of Rage, c'est-à-dire qu'il vient et tu sais, qu'il tape sur tout l'écran. Sauf que là où c'est intéressant dans celui-là, c'est que ça stoppe pas l'action. Le pouvoir à la Street of Rage...
t'as pas la cinématique à la Street of Rage.
C'est
ou
ça. Chaque personnage a un truc différent. Tu vois, par exemple, il y a le deuxième personnage dont je vais vous parler. Elle a un viseur et elle peut tirer sur l'écran comme si elle était en mode, tu sais, sur les jeux d'arcade où t'avais un viseur sur l'écran et que tu pouvais tirer sur les persos. C'est ce gameplay-là. Donc le jeu est super fou parce qu'il y a énormément de façons de faire des choses différentes et les quatre personnages se jouent de manière totalement différente.
En plus, il y a des transformations de
alors,
ce que j'ai vu.
La transformation, c'est si t'as pas envie d'utiliser le pouvoir à la Street of Rage, tu peux utiliser la transformation à la place qui là fait un peu penser à Power Stone quand tu prenais les trois gemmes, tu sais. Ça te transforme en... t'es surpuissant, quoi. Tu peux faire des trucs de fou. Le perso Fly, quand tu fais sa transformation, il se transforme en espèce de méca... tu sais, on dirait un espèce de samouraï, samouraï méca. Il a des coups abusés qui font tout l'écran. C'est une espèce de sabre qui découpe tout l'écran. C'est ultra stylé. Le deuxième perso, pour vous dire un peu comment le jeu est diversifié, le deuxième perso, c'est un lapin qui me fait penser aux Tiny Toons. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, les Babs, tu sais, Babs et Babster Bunny, là. Elle, en fait, elle tape à distance et à chaque fois qu'elle tape, elle se transforme. Donc, elle peut se transformer en samouraï, et... enfin, en ninja et tirer des shurikens. Ensuite, elle va se transformer en canonnier et tirer un gros boulet de canon.
Elle s'en sort en sorcière aussi.
Ouais, elle, c'est vraiment le perso ultra loufoque. Et elle, ses armes secondaires, ça va être plutôt le boomerang, le shuriken. Et sa transformation, pareil, elle se transforme en une espèce de ninja super rapide. Donc, les persos sont ultra divers. Tu vois, le troisième perso, il me fait penser à Piccolo un peu. Mais Piccolo avec une afro et une pipe. Et il se bat, tu sais, comme le cliché des vieux maîtres dans les shonen. Oui. Tu sais, il se bat en se mettant sur sa canne et en mettant des coups autour de lui. Enfin, sa canne, c'est une pipe géante, faut imaginer. Quand tu tapes, moi, c'est le perso que j'ai pris. Donc, quand tu tapes, il tape à la canne le survivant. Ça, il fait ta-ta-ta-ta-ta-ta, il met des coups de canne et c'est vraiment canne le survivant. Lui, les trucs qu'il peut ramasser, c'est des trucs pour transformer en poulet les ennemis, des trucs comme ça. C'est un peu le chaman de l'équipe. Quand tu fais le Hadoken, tu peux faire genre des... Si tu le fais, tu peux faire du feu, de la glace pour jouer les ennemis ou de la foudre pour taper super fort. Il a un espèce de coup à la Makanko Zappo quand il se transforme. Il est dans une espèce de super Namek. C'est ultra stylé, ce jeu. Donc, et le quatrième perso, c'est un espèce
c'est le bourrin,
de gros
j'ai
taureau. Ouais, gros taureau bourrin. Lui, je ne l'ai pas testé. Et bon, comme j'ai pas eu le temps de voir ses attaques, je peux pas trop en parler, mais il a l'air aussi intéressant. Le jeu est assez complet parce que en gros, vous avez une touche pour attaquer, une touche pour sauter, une touche pour grab, une touche pour faire une contre-attaque. Mais alors, vu comment le jeu, c'est le bordel des contre-attaques, ça a l'air compliqué.
Après, ouais, parce que là, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est très, très, très chargé. Hein.
Ah ouais, c'est un beat'em up. C'est peut-être le défaut du jeu, c'est la lisibilité. Des fois, la lisibilité, tu sais pas où t'es, quoi.
Le truc, c'est que c'est non seulement c'est chargé au premier plan, c'est-à-dire que t'as beaucoup, beaucoup d'ennemis assez détaillés, qui font plein d'attaques, etc. Mais en plus, c'est chargé en arrière-plan, parce qu'il se passe des trucs en arrière-plan aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment le bordel, quoi.
Ouais, carrément.
Je pense qu'il y a un côté fun, mais je me demande si ça peut pas être un peu frustrant, tu sais, quand t'essayes un peu de faire des trucs un peu recherchés, quoi, tu vois.
Ouais, je pense qu'il faut y jouer en se marrant. À mon avis, il faut pas y jouer sérieux. Après, peut-être que si, peut-être que je me trompe, mais peut-être que quand tu connais un peu plus le jeu, tu te fais moins surprendre par le côté brouillon. Parce qu'au final, il y a un côté où t'enchaînes les ennemis pour qu'ils soient tous du même côté. Ça fait peut-être un peu partie du jeu aussi pour pas te retrouver submergé. Et le jeu est super divers, les persos sont super différents. Tu peux y jouer sans faire les attaques spéciales et jouer simplement. Et tu peux aussi... Il y a un système que je trouve super intéressant dans le jeu, que j'ai vu nulle part ailleurs. C'est que tu vois, dans ces jeux-là, pour faire les combos, t'as tendance à bourriner ta manette comme un bourrin. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu tapes, il y a un moment donné où il y a une espèce d'éclair bleu qui parcourt ton personnage. C'est vrai pour tous les personnages. Et si tu retapes à ce moment-là, tu fais ton combo de manière parfaite et donc ça fait des attaques plus stylées, plus fortes, qui tapent plus d'ennemis. Donc ça t'encourage à bien jouer. Tu peux mitrailler comme un bourrin si t'as pas envie d'y penser, mais si tu commences à y penser, tu fais des trucs vraiment plus intéressants.
Ouais.
Donc il y a même un côté skill un petit peu dans le jeu que je trouve plutôt pas mal.
Puis même il y a côté une vraie belle surprise aussi quoi, parce que genre le gars qui font le gars qui fait le Hadouken à un moment donné sur
ah oui ça c'est les persos assist, t'as raison, j'en ai pas parlé.
C'est pas le gars lui-même, c'est le chien qui tient dans la main qui fait le de Ken, c'est n'importe quoi.
Mais en plus,
vois,
c'est une parodie de Ken de Street Fighter, si t'as fait gaffe. C'est kimono rouge. C'est complètement Ken qui te fait un espèce d'Hadoken à la Marvel versus Capcom, c'est-à-dire les Hadoken qui sont des Kamehameha, en fait, hein, qui sont des Final Flash. Là, on parle carrément de Hadoken.
Ouais, c'est ça.
Ils sont un peu boostés, quoi. Donc, c'est un espèce de grosse boule de feu. Il y a des références dans tous les sens. Alors les petits défauts, c'est que le scénar a l'air nul. Moi, j'ai zappé au bout d'un moment parce que c'était très verbeux. Le jeu est verbeux, c'est relou à chaque scène.
Ah, oui.
Ouais, donc c'est chiant.
Non, parce que c'est une chose d'avoir un scénar nul, c'en est une autre de te l'imposer, tu vois.
Voilà. Et merci, c'est ça. Et l'autre truc qui me saoule, alors heureusement dans les options d'accessibilité, heureusement on peut tout débloquer parce qu'il y a un truc qui est un peu pénible dans le jeu, c'est quand un personnage débloque une attaque, ça coupe l'action, ça te met un espèce de scroll, tu sais, un espèce de parchemin qui arrive, qui prend tout l'écran pour te dire la nouvelle attaque. Tu sais pas, et quand tu joues à 4, on débloque à peu près les attaques en même temps. Donc t'as un espèce de carton qui vient couper l'écran toutes les 2 secondes, et puis on dit, ah bah non, c'est à toi d'appuyer sur machin. Ah bah c'est à toi d'appuyer, là c'est pour toi l'attaque. Alors dans le jeu, dans les options d'accessibilité, tu peux heureusement mettre tout débloqué. Donc moi j'ai débloqué toutes les attaques, comme ça il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas d'histoire. Par contre. Là où c'est chiant et bizarre, c'est que quand tu décides de débloquer toutes les attaques, donc effectivement tu les as, mais ils ont gardé les cartons abominables qui viennent te couper comme si tu continuais à débloquer des attaques alors que c'est des attaques que t'as déjà. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu mal foutu de ce point de vue là en termes d'ergonomie. Ça se voit que c'est un dé, quoi. Sur ça ils ont vraiment besoin de taffer. Ergonomie et lisibilité, quoi. C'est vraiment ça.
D'accord. Donc pour le moment c'est sur Steam uniquement. Je ne doute pas que ça sortira sur Switch plus tard ou ce genre de choses. Je n'en doute pas.
Ah oui, petite mention sur l'OST. Super cool. Entre jazz et hip-hop. Et en règle générale, le jeu a une grosse qualité par contre. C'est les menus. Même quand tu appuies sur Start, tu as un artwork de ton personnage. Ça me fait beaucoup penser à Persona. Dans, tu sais, Persona, il y a une espèce de qualité d'habillage des menus que tu retrouves pas forcément dans d'autres JRPG qui sont très austères.
Oui.
Et dans ce jeu-là, il y a cet effort-là qui est fait. Les menus sont d'une qualité artistique très élevée.
Bah, tu sens que c'est recherché.
Ouais, et ça fait super plaisir.
Donc, on va enchaîner, mon cher Kefka, sur le prochain jeu qui est un jeu
ouais,
de cartes.
Mais alors, lui, j'ai joué... Ah ouais, non, mais lui, j'ai pas été raisonnable. Hein. Lui,
donc, c'est quoi le... ce jeu? Comment il s'appelle déjà, mon
c'est
cher
mon
Kefka?
Poison. Alors, le jeu s'appelle Forward Escape the Fold. Alors, c'est un roguelite, dungeon crawler, pixel art. Concept ultra simple. Alors j'ai vu dans certaines reviews, ils parlent de deck building, c'est pas du tout du deck building. Alors en fait, c'est quoi le concept du jeu? Tu choisis un personnage. Un personnage, il est défini par ses PV de départ et un pouvoir qu'il peut activer. Le pouvoir, il compte un certain nombre de mana. Le numéro que tu vois sur le pouvoir, c'est le nombre de points de mana que tu dois débloquer. Et en fait, comment ça se présente? Vous avez des colonnes, 3 colonnes de cartes. Et en fait, d'où t'es, tu dois choisir la prochaine carte où tu vas. Sachant que bah, si tu vas sur une carte pièce d'or, tu récupères l'or, une carte potion, tu te soignes, une carte bouclier, tu te rajoutes de l'armure. Enfin, tu vois, c'est très classique, hein. Il n'y a rien de particulier. Seulement, avec les ennemis, là où c'est intéressant, c'est que si tu rentres dans le champ de vision d'un ennemi, l'ennemi t'attaque. Et comment ça se passe un combat? C'est juste que si tu as plus de PV que lui, c'est toi qui gagnes et ça soustrait son attaque à tes PV. Enfin, c'est PV et attaque, c'est la même chose, en fait, si tu vois ce que je veux dire.
D'accord.
Et donc... alors là où c'est un peu bizarre, c'est que, alors déjà t'as pas toujours le choix des 3 cartes. Pour avoir le choix, faut être au milieu. Si t'es sur un côté, tu peux pas accéder à l'autre côté. Ça c'est une petite subtilité. Si t'es sur la carte tout à gauche, tu peux pas aller à la carte tout à droite. Bon, ça c'est des petites subtilités que tu captes en jouant. Et là où c'est intéressant, c'est que tous les persos se jouent différemment. Tous les persos réinventent limite le jeu. Parce que par exemple, tu vas avoir il y en a un, c'est un robot, du coup il a un seul PV et lui il joue qu'en armure. Tu vas avoir un perso, lui, il a un malus de base et qu'il voit pas les... Tiens, c'est celui qu'on voit là. Il voit pas les cartes suivantes, lui. Par contre, il peut être plus facilement... Enfin, il a des compétences qui lui permettent d'être, de faire super mal au mec devant lui. Et c'est super addictif. C'est un roguelite super bien réussi. Dès que t'as fini un run, le seul truc que t'as envie de faire, c'est d'en relancer un autre. Là, j'ai déjà débloqué tous les persos et pas mal de sorts. Le jeu est super complet. Alors, c'est un roguelite un peu particulier. Il est très axé gameplay. Parce qu'au début, on essaie de te mettre un peu de lore, mais au final, en termes de lore, il n'y a que dalle, parce que t'as même pas de choix. C'est-à-dire que quand tu vis une situation, t'as pas de choix, t'as pas genre ouvrir le coffre de gauche, ouvrir le coffre de droite, tu sais, comme tu peux te retrouver dans certains roguelites à choix multiples. Là, c'est pas comme ça. Là, il y a écrit, vous avez choisi le coffre de droite, et donc, boum, et on te laisse choisir les trucs, tu vois. Donc, c'est vraiment très axé gameplay. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est le genre de truc. Le jeu, il est quasiment tout le temps ouvert en arrière-plan depuis 3 jours, là, c'est abusé. Tu vois, je suis pas raisonnable sur ce jeu. Donc.
Alors, on précise que c'est disponible sur PC et Mac. Donc, faites-vous plaisir.
C'est DRM free aussi.
Mm. Ok.
Donc, il n'y a aucun DRM sur le jeu.
Donc, on va terminer avec Patrick's Paradox. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors, ça, c'est le coup de cœur de la semaine.
Je t'avoue, j'ai vu le trailer, j'ai rien compris.
Alors, ouais, parce que c'est un puzzle game récursif. Déjà, il va falloir expliquer. Alors, c'est développé par une seule personne, un certain Patrick. Et donc, c'est pour ça qu'il l'appelait Patrick Paradox. Donc, en fait, le but de ce jeu-là, ça va vous faire penser à Sokoban ou à 10 000 jeux où on doit pousser des blocs, des jeux de réflexion. Sauf que là, comme tu le vois dans le trailer, tu pousses le bloc dans lequel tu es aussi. Donc, tu as des espèces de mises en abîme. Et en fait, quand tu pousses un bloc contre un mur, tu peux rentrer dedans et donc devenir plus petit et agir à l'intérieur des blocs.
Mm-hmm.
Donc, tu peux pousser un bloc qui te contient, tu peux rentrer dans un bloc qui te contient. Et le but, en fait, c'est de...
C'est Blockception, en fait.
C'est Blockception de fou. Et les puzzles sont super inventifs parce que du coup, tu peux te déplacer toi, tu peux déplacer la boîte qui te contient. Tu dois trouver comment ne pas te bloquer et en même temps réussir à activer tous les blocs parce qu'il y a des blocs que tu dois placer dans des espèces d'emplacements qui sont prédéfinis par le puzzle. Et toi, tu dois aller dans celui qui a ta silhouette. Et c'est casse-tête de fou. Et j'ai jamais vu. C'est pas des énigmes que t'as l'habitude de voir. C'est unique. Oui. Tu vois, c'est pas un jeu d'énigmes comme il y en a 10 000 qui sortent. Là, celui-là, il est vraiment unique. Et il y a une excellence dans le game design qui est assez incroyable.
Parce que je trouve intéressant en plus d'un point de vue level design, c'est par exemple là, il y a une séquence où on voit que l'énigme, en gros, t'as un mur avec un embranchement, en fait, on va dire. Et le truc, c'est que t'es obligé de pousser le bloc pour un autre bloc pour accéder à cet endroit-là. Et ce bloc, en fait, quand tu vas te réduire, ça va te faire popper dans une nouvelle zone, entre guillemets, c'est avec ça. Un chemin qui va vers le haut et un chemin qui va vers le bas. Et en gros, pour terminer le niveau qui est au-dessus, il va falloir choisir le chemin que tu veux en format réduit pour ressortir et te retrouver sur le bloc d'avant. Quoi.
C'est ça. Et des fois, comme le bloc que tu contiens, c'est aussi... Enfin, le bloc que tu pousses, c'est aussi celui qui te contient. Bah en fait, comme des fois la map, il y a une sortie, si tu sors, tu vas sortir là où tu as laissé le bloc.
Oui.
Donc des fois, tu dois déplacer le bloc, sortir pour pouvoir accéder à une zone où tu n'avais pas accès et résoudre le puzzle. C'est super intelligent. Franchement, si vous
avez envie... En plus, j'imagine que tu peux combiner des blocs derrière, etc.
Mais ouais, il y a des trucs de fou.
C'est sans fin.
C'est sans fin. Enfin, moi, j'ai joué 1 heure ou 2. Et bon, bah celui-là, je sais que je vais pas vite me lasser parce que c'est du jamais vu. Là, c'est...
Bah, enfin, surtout qu'en plus, il y a un potentiel de modding derrière où c'est infini, quoi, tu vois.
Ah bah, enfin, c'est clair. Si après, les gens s'emparent de ça, on est terminé, là. Donc, non, mais c'est incroyable. Tu vois, pour moi, c'est même le niveau au-dessus de Baba Is You dans l'inventivité.
Mm.
Pour te dire où on en est, quoi. Déjà, tu vois, là, tu vois dans le trailer que c'est ce que je te disais. Il a poussé le bloc en dehors du bloc où il était. Et comme il l'avait bien placé, le bloc est apparu là où il voulait. Bon, c'est super dur à décrire à l'audio. Je suis désolé, hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais allez voir les trailers de Patrick's Paradox. Franchement, c'est une merveille, ce jeu.
Voilà. Donc, ça y est. C'est terminé pour le tunnel. Ou pas.
Ouais, maintenant, c'est avec le tien.
alors, juste, je précise, c'est donc disponible sur Steam et itch.io. Hein, donc,
voilà. Et je rappelle, hein, tous les jeux dont j'ai parlé sont sortis cette semaine, ne sont plus en early, enfin, ne sont pas en early access. C'est toujours minimum du 1.0. Donc, toutes les semaines, c'est les jeux terminés pour se faire plaisir.
Exactement. Et comme dit KVD, c'est très original. Et,
ah oui, Patrick Paradox, pris de l'original, est fait par une seule personne. Lui, j'attends ce qu'il va nous donner pour la suite. Hein. C'est super malin ce qu'il a fait.
Et en plus, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que c'est un jeu qui fait avec pas beaucoup de moyens. Quoi. Donc,
Mais voilà. Oui, c'est ça. C'est quand t'es un game designer avec tu peux te démarquer avec peu de moyens aujourd'hui, vu les outils qu'il y a. Et le jeu est beau, le jeu est joli. Hein. C'est pas un jeu en ASCII, enfin, peut y avoir de très beaux jeux en ASCII, mais je me comprends, quoi. C'est un jeu, quand tu le vois, tu te dis, bon, Alors pour le coup, ça mériterait de sortir sur téléphone ce jeu-là, parce que là, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment la folie.
Ouais. Bref. Allez, passons à la suite. On va enchaîner. ATH, tu peux te réveiller.
ATH, il a pas trop réagi là. Il y en a eu aucun qui lui.
En fait, je peux pas trop parler parce qu'on passe l'aspirateur chez moi, donc c'est pour éviter des problèmes au montage.
Ah, d'accord.
Ah,
merci
d'accord.
Merci pour ta considération.
Il est en mode difficile, ATH, sur les podcasts.
Donc, on va enchaîner sur une annonce qui a eu lieu cette semaine d'un jeu qui est déjà sorti, n'est-ce pas ? C'est un jeu qui est sorti il y a 5 ans déjà. Enfin, je dis 5 ans. Oui, c'était 5 ans, exactement.
Ah, d'ailleurs, bah, tu me fais penser, excuse-moi de te couper, sur Jitsu Squad, le beat'em up super cool. Le jeu va sortir un DLC gratuit avec un nouveau personnage, un nouveau boss, etc. etc. Donc, voilà, c'est toujours
cool. Ok. Donc, on va parler de Rainward. Alors, Rainward, si vous ne savez pas ce que c'est, moi, c'est un jeu que ça fait longtemps que je dois le faire. Tu sais, ça fait partie de la to-do list des jeux qu'il faut que je fasse parce qu'on a dit tellement bien qu'il faudrait vraiment que j'essaye. Ou c'est un jeu, si tu veux, qui a la structure d'un Metroidvania, mais qui n'est pas vraiment un Metroidvania parce que, tu sais, t'as pas tout le côté chope des nouveaux pouvoirs, etc. Parce que c'est vraiment un jeu où, en fait, tu vas progresser grâce à ta connaissance du monde, en fait. Et où tu joues.
C'est le genre de jeu à Wikia.
Voilà. C'est le jeu où tu vas jouer celui qu'on appelle le Slugcat, qui est un espèce de chien un peu chelou, tout mimi, un peu extensible et assez agile. C'était un jeu donc, qui avait eu un gros succès à l'époque, hein, il me semble. Alors, c'était pas non plus Hollow Knight, mais il avait eu son succès critique, on va dire. Et il se trouve que Rainward va bénéficier d'un DLC, n'est-ce pas ? Et ce DLC s'appelle Downpour. Alors, qu'est-ce que c'est Downpour ? Bah, c'est tout simplement un DLC avec 5 nouveaux personnages, parce que pourquoi pas ? Donc, en plus du Slugcat de base, ils vont en rajouter 5 autres, qui vont pouvoir, qui vont avoir des capacités différentes, et ils vont pas se jouer pareil. Donc bon, de ce que j'avais compris, c'était déjà un jeu qui était vertigineux en termes de possibilités. Alors si en plus derrière, tu rajoutes différents personnages qui n'ont pas les mêmes capacités et qui permettent d'aborder l'univers de façon différente, que ce soit de manière plus agressive ou peut-être avec des pouvoirs en plus, etc. Bah écoute, pourquoi pas. Alors je précise, Rainward, par contre c'est un jeu où il faut adhérer à la direction artistique parce que c'est du pur pixel art.
Ouais, mais je trouve que l'animation est soignée. Vraiment joli.
Oui, c'est ça. C'est un jeu qui compense, on va dire, son pixel art un peu baveux, quoi.
Ouais, j'aurais préféré qu'il soit plus beau.
Une animation hyper stylée, quoi, tu
vois.
C'est
ça. Il n'est pas super beau, ouais, en termes de pixel art fixe, mais en termes d'animation, il y a vraiment du travail, par contre.
Ouais.
Là, tu vois comment les ennemis bougent et tout, je trouve ça assez fou. Et comment ça se joue, en fait, ça ? Tu mets des coups, tu sautes, c'est ça ?
Oh, oui, non, mais après, c'est un jeu, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de contrôle. Hein.
D'accord, parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de possibilités, du coup, c'était par rapport à l'exploration ?
C'était par rapport à l'exploration et la compréhension de comment les systèmes de l'univers fonctionnent entre eux, etc., en fait.
Ok, voilà. D'accord.
C'est pas un jeu où tu vas récupérer un nouveau pouvoir qui va te permettre d'accéder à une nouvelle zone, pas du tout. Hein. C'est vraiment un jeu où tu vas te balader et où, en gros, ta progression, c'est la compréhension de l'univers du jeu.
C'est stylé. Ok.
Donc, en tout cas, bravo à eux, parce que sortir un DLC comme ça au bout de 5 ans, ça veut dire quand même que ça fait 5 ans qu'ils font rien d'autre. Donc, j'imagine que ça va être un super DLC en plus. Donc, hâte de voir ça. On enchaîne ?
Ouais.
On va parler alors d'un jeu. Alors, LKBD dans le chat, je t'invite à ouvrir tes esgourdes, n'est-ce pas, hein? On va parler d'un jeu qui s'appelle Winter Ember. Alors, Winter Ember, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce... alors, j'ai pas envie de dire forcément de Tif-like, mais disons qu'il a l'esthétique d'un Tif, mais c'est un jeu d'infiltration en vue isométrique. Et, petite spécificité... c'est un jeu d'infiltration en vue isométrique où vous allez... ils ont eu l'idée, en gros, tu sais, de pas mal jouer avec l'arc et les flèches du personnage. C'est-à-dire que sur les flèches du personnage, tu vas pouvoir mettre différents effets que tu vas pouvoir combiner, en fait. Par exemple, imaginons si tu mets je sais pas moi, la flèche qui fait un nuage de fumée plus la flèche qui fait un poison, tu vas faire un nuage de poison. Hein.
Mais c'est presque un okay. top-down, j'ai l'impression même, un top-down 3D.
Bah, quand je dis isométrique, oui, c'est top-down, mais il y a un petit un angle isométrique. Si
ouais,
tu veux,
ouais,
quoi,
ouais,
en fait,
bien
hein.
sûr.
Mais c'est de la 3D, sinon hein,
ouais,
tu vas pouvoir 3D, tourner
ouais.
la caméra, etc. Mais l'angle, si tu veux, il fait un peu caméra isométrique, tu peux tourner, quoi.
Il est assez beau. Hein.
Voilà, il est vraiment super chouette visuellement. Et moi, ce qui m'intéresse,
tu
sais,
c'est
un peu le côté à la Magica, justement, parce que ça me fait penser à Magica, tu sais, ce côté, différents effets sur des sorts, et je vais les combiner, et ça va faire des trucs drôles, tu vois. Donc là, ça va être la combinaison d'effets pour aider à ton infiltration. Et en plus de ça, chose intéressante, t'as tout un système de skills dans le jeu à débloquer, et t'as pas moins de 70 skills. Alors après, j'espère qu'ils ont équilibré tout ça et que c'est intéressant, hein, parce que c'est gentil de mettre 70 skills, mais
oui, le marketing
si c'est 70
du nombre,
skills,
hein,
voilà, c'est ça. Mais
même dans le Point and Click, Cathy Miu Miu Land, ils mettaient plus de 100 personnages. Bon, je préférais que tu m'en aies mis moins, mais plus marquant peut-être. Après, j'en sais rien, peut-être que les 100, ils sont marquants, mais le marketing du nombre, ouais, en général.
Bah après, moi, ça me dérange pas, tu sais, surtout le côté émergent, où tu vas pouvoir combiner des sorts, parce que justement, plus t'en as, plus ça te fait de combinaisons, et des fois, ça te permet de faire des trucs débiles qui sont pas forcément utiles, tu vois, en fait. c'était le cas dans Magica, où des fois, le but, c'était pas forcément, tu sais, de faire des combinaisons petites, hein, c'était de faire des trucs rigolos, quoi. Donc, moi, de ce côté-là, ça m'intéresse. Et les skills, bah écoute, on verra. Hein. S'il y a suffisamment de variété pour faire des trucs intéressants et te permettre de faire un perso vraiment personnalisé, bah pourquoi pas. Et en tout cas, moi, ce que je tiens à noter, c'est que visuellement,
ouais, visuellement,
c'est super léché.
Ouais.
Hein. Après, comme d'habitude sur les jeux d'infiltration comme ça...
Bah, c'est plus du combat, t'es sûr que c'est infiltration, ça? Parce
ah oui,
y
c'est
y
infiltration.
Il y a beaucoup de bagarres,
hein.
quand même. Hein.
Bah écoute, oui, c'est infiltration. C'est vraiment
orienté
infiltration.
À des moments, t'as
mais il va y avoir
des.
Par contre, il part du principe que une fois que t'es découvert, derrière, il faut que tu utilises tes flèches pour t'en sortir, etc.
Bah ton art, t'as aussi une épée.
Mais il faut voir aussi l'équilibrage, ouais. C'est-à-dire que est-ce que ton perso c'est une chips et que certes tu peux te défendre, mais voilà, tu peux pas non plus parce que dans Tif aussi t'as une épée, hein. Mais ouais. Voilà.
Parce que moi c'est le système de combat qui me fait peur là. Quand tu vois les combats.
Bah je sais pas, moi tant que j'ai pas testé, j'émettrai pas d'avis dessus.
Non, je mets un point d'interrogation moi, pour l'instant. Pour le
voilà, donc à voir. Moi ça m'intéresse, tout le côté combinaison de sorts, etc., infiltration. Un petit côté immersive sim aussi, parce que t'as quand même le côté gameplay émergent, tu vas combiner les effets, etc. Bah ça m'intéresse. Carrément. Voilà.
Et ça c'est, ouais, c'est un dé ou c'est...
Oui, c'est un dé, ça sort fin avril, je crois.
Ouais, 19 avril, apparemment.
19 avril, donc à surveiller.
Ouais, carrément.
Donc, je ne doute pas que... Ah, LKBD, on en a déjà entendu parler, donc voilà. LKBD, toujours sur le coup quand il s'agit de l'infiltration et de l'immersive sim, donc, pas de soucis. on va enchaîner sur un autre jeu qui m'a tapé dans l'œil, pour le coup, et ça s'appelle... Forever Skies. Alors, Forever Skies, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de jeu de survie, en fait, où on va jouer un scientifique qui va revenir sur notre terre dévastée, hein, c'est-à-dire que, bon, on s'est cassé dans l'espace, hein, qu'est-ce que vous voulez ? On a tellement foutu le bordel qu'on...
Les plus riches.
Voilà, c'est ça. et du coup, on va jouer un scientifique qui va revenir sur Terre, mais sur une terre un peu dévastée, où, en gros, t'as un espèce de nuage de poison... qui recouvre la Terre entière. Et donc, tu vas explorer la Terre avec ton dirigeable. Et moi vous me connaissez, hein, dirigeable, les cieux, tout ça, exploration. En plus, avec tout le côté, tu sais, tu visites des villes en ruines, des gratte-ciels, etc. Et où donc, j'imagine qu'il y a tout à côté parcours aussi, parce que du coup, j'imagine que tu vas te retrouver sur des plateformes instables, ce genre de choses, des immeubles qui risquent de s'effondrer. Enfin, je pense que sur un jeu de survie comme ça, il y a moyen de faire des choses marrantes. Et donc, on va jouer un scientifique qui va se balader, qui va enquêter sur ce qui s'est passé sur Terre, etc.
Ouais, parce que c'est vu à la première personne, mais on n'est pas non plus dans du FPS frénétique, j'ai l'impression.
Ah non, c'est vraiment... Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est un espèce de Subnautica, si tu veux, sauf que tu es dans un dirigeable, quoi.
Puis même, il a l'air d'avoir
dans,
de la,
sous la mer, t'es dans les cieux, quoi.
Puis il a l'air d'avoir pas mal de narration, parce que quand il explore les, l'espèce de bâtiment qu'on a laissé tout mort, il y a écrit, il y a des tags où il y a écrit « Do you remember the forest ?»
Voilà, donc, et puis même, t'as aussi, apparemment, ça peut arriver, tu tombes sur des logs audio, des trucs comme ça, parce que j'ai l'impression que tu tombes sur
dans,
des PC, sur
comme
des
dans les BioShock ou les Arkham.
Et puis, il y a aussi des phénomènes un peu chelous, parce qu'à un moment donné, bon, à la fin de la vidéo, on voit qu'il y a une espèce de masse informe, de forme de vie un peu chelou, gigantesque, qui pop dans le ciel, etc.
Bah,
moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Subnautica, mais dans le ciel, quoi, en fait. Donc, et pour le coup, Subnautica, c'était vraiment très bien. Donc, curieux de voir comment ça va donner. Et puis, en plus, vous voyez, là, il y a de la physique et tout, les,
ouais,
des images qui se pètent la gueule. Donc,
c'est
ça a l'air
super
vraiment
joli,
stylé,
ouais,
en fait.
Le graphisme 3D réaliste, c'est super beau.
Donc, ça s'appelle Forever Skies. Et ma foi, hâte de voir ce que ça va donner. Et, ah oui, et, apparemment, ils font un teasing à la fin. On peut descendre sous le poison, le nuage de poison. À voir. Bon, allez.
On enchaîne.
Hop. Et on va maintenant parler du gros jeu de la semaine, hein, j'ai envie de dire. Le gros jeu de la semaine, c'est Forspoken. Alors, Forspoken, je vous le rappelle, il a été reporté au mois d'octobre. Et donc, il y a
Game Informer. Il devait sortir quand à la base, tu te souviens?
Il devrait être déjà sorti, je sais plus quand, mais il aurait dû être déjà sorti là, en fait, il me semble. Ouais. Ça a été reporté par Square Enix, et des previews qu'il y avait eu, visiblement à raison, parce qu'il y avait des soucis sur le jeu. Donc on a eu le droit à pratiquement 10 minutes de gameplay. Que dire sur Forspoken? Moi, c'est un jeu qui m'enthousiasme par toute sa partie, on va dire... j'ai pas envie de dire parcours, mais les déplacements ont l'air vraiment stylés, quoi.
Ouais.
Le seul truc moi qui est mon gros point d'interrogation, c'est vraiment la... il y a deux choses qui m'intriguent. C'est la partie combat. Alors, les sorts ont l'air super stylés, hein, c'est-à-dire que vraiment là tu vois elle balance des pouvoirs, enfin vraiment t'as des effets de partout, c'est impressionnant.
Ouais.
Maintenant, j'ai quand même l'impression que par moments ça a l'air assez lisible, parce que justement ils mettent des effets de partout et enfin, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Quand tu mets des effets partout, c'est bien, c'est stylé.
C'est joli
mais,
à voir,
est-ce que
mais ça a l'air chiant à jouer.
Voilà. Et surtout, moi, ce qui me gêne dans la partie combat, tu sais, c'est que tu as une roue compétence où tu vas switcher entre les sorts, en fait. Et j'ai l'impression que tous les deux secondes, tu vas devoir switcher entre tes sorts sur cette roue et ça a l'air pas fluide, en fait. Et ça, c'est un gros problème. Je pense qu'il faudrait qu'ils voient le système un peu pour que tu puisses, au moins que tu sais tes sorts de base, tu vois, et que tu puisses faire une rotation entre ces sorts-là sans nécessairement devoir switcher sur l'espèce de roue crantée immense, là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a ça en bas à droite, mais d'ailleurs, le HUD a l'air assez gros, je trouve. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, tu vois, toute la partie de déplacement. Je trouve que le jeu fait ça de manière super bien, quoi.
C'est joli, ouais.
Enfin, le personnage, tu veux, franchement, regarde, t'as des décors qui sont vraiment accidentés et ils se déplacent, mais avec une fluidité là-dedans, franchement,
ouais.
Je trouve ça impressionnant, quoi. Enfin,
après, tout à l'heure, quand il escaladait des murs, ça avait l'air plus laborieux. Tu sais, pour aller vite et tout, après, c'est peut-être le joueur qui
décide.
C'est ça que je sais pas, ouais. Faut voir comment ça se joue, quoi, le game feel, tu vois, comment tu le sens.
Et puis surtout, autre point d'interrogation, les ennemis, tu vois, ça a l'air des sacs. Il y a des moments, ça a l'air d'être des vrais sacs à PV quand même. Hein. Donc,
oui,
je sais
puis.
Je trouve qu'il y a une contradiction, si tu veux, entre, tu sais, les gros sorts que tu balances, là, qui ont des gros effets de particules de partout, et tu dis, waouh, putain, la vache, t'as vu ce que je lui ai mis et, ah oui, mais j'ai retiré qu'un quart de sa barre de vie, tu vois. Enfin, c'est.
Bah
c'est
ouais,
un peu chelou, quoi.
C'est un peu le problème. T'as du wow effect tout le temps, mais une fois que t'as vu tous tes sorts, ça va être quoi l'intérêt du jeu, quoi. Au bout d'un moment, c'est ça qui me fait un peu peur. Est-ce qu'ils vont nous tenir? Est-ce que ça va être un bon scénar? Est-ce que ça va être, tu vois, des bonnes évolutions de gameplay?
Et puis surtout, regarde là. Tu vois, là, le souci que j'ai,
là, c'est intéressant, c'est, tu vois.
Là, on a, non, mais surtout, on a trois ennemis qui sont lents, qui se ressemblent tous. Et, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a une. Enfin, c'est un peu comme Ghostwire, si tu veux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais.
C'est Ghostwire, le souci, c'est
la
que
même
ça
maladie. Manquait
d'adversité en face, en fait, tu vois. C'est. T'as l'impression que les ennemis, ils sont pas très réactifs.
Ils sont là pour se faire taper, quoi.
Ouais, c'est ça. T'as l'impression que c'est des sacs à pavés que t'es là. C'est pas
petit. Regarde,
bon,
tu peux invoquer des tornades, des pluies de glace. Tu veux qu'ils fassent quoi? Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, on est dans une crevasse. Les ennemis, ils se font complètement exploser là. Et comme quand tu choisis tes sorts, le temps est ralenti, t'as bien le temps de faire les.
Bah,
de
surtout,
faire tes
le
choix.
Souci, c'est que les ennemis sont très lents. Parce que, encore si des ennemis avaient aussi des capacités pour compenser, tu vois. Mais là, t'as des ennemis, en gros, j'ai l'impression qu'ils peuvent balancer des boulets. Alors, peut-être que c'est le tuto du jeu, tu vois, et du coup, t'as les ennemis base et ils sont
oui.
pas très intéressants, hein,
oui.
tu vois, comme d'habitude. Mais derrière, il faut qu'il y ait un peu de répondant, parce que sinon, on va s'emmerder.
Après,
quoi.
Pour moi, tu peux faire des ennemis de base intéressants. Hein.
Mm. Et puis surtout,
hein.
moi, mon dernier point d'interrogation, c'est ça a l'air vite quand même. Hein.
Mais c'est ça, moi, qui me fait peur dans ces jeux-là. C'est ok, ouais, le combat, ça a l'air cool. Et encore, comme on l'a dit, il y a des, tu vois, il y a peut-être des bémols, on peut pas savoir sans avoir la manette en main. Mais qu'en est-il du reste, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait avec le reste?
C'est alors après contrairement à Elden Ring par exemple, t'as quand même une narration qui a l'air assez présente, etc. Donc ils vont voir de ce côté-là
ouais,
si
mais
ça
bon,
sera
est-ce
bien
qu'ils
fait,
vont réussir à nous faire un scénar intéressant, parce que si c'est juste un scénar à zapper.
Bah en tout cas, je rappelle que c'est un isekai, hein, c'est-à-dire que en gros on va jouer une protagoniste qui se retrouve projetée de son New York natal à un monde complètement étranger qui est visiblement post-apocalyptique, parce que les bestioles que vous voyez là, en fait, c'est visiblement des êtres humains qui ont été transformés. Et de ce que j'ai compris du scénar, notre héroïne est la seule qui n'est pas contaminée par ces choses-là, en fait.
Donc c'est un isekai.
Ouais, c'est un isekai.
En jeu vidéo, on a déjà un précédent ou pas? Moi, j'en connais pas. Hein.
Après, j'en connais pas, mais honnêtement, l'isekai, si tu veux, c'est juste un ressort. Pour moi, c'est juste un ressort narratif, si tu veux, pour te permettre de découvrir l'univers
mais
de manière critique.
Moi, j'ai
quoi,
jamais
vois,
été
en fait,
convaincu
hein,
par ce ressort. Oui, c'est ça. Et j'ai jamais été convaincu par ce ressort narratif. À chaque fois que j'ai lu un isekai, il m'est tombé des mains. J'ai jamais trouvé ça bien fait. Donc là, leur scénar, il me fait super peur.
Bah, surtout,
encore plus,
hein. J'ai l'impression qu'ils tombent dans le travers des isekai, tu sais, qu'on voit dans l'animation japonaise, en fait. C'est le côté je joue un personnage qui cheat, en fait.
Mais voilà. C'est ça. Mais en fait, dans les isekai, de toute façon, c'est toujours
c'est
pareil.
C'est exactement le problème qu'il y a dans les isekai, en plus.
Mais
ça,
c'est ça. C'est exactement pareil. C'est soit au bout d'un moment, l'univers de base, on n'en a plus rien à faire, tu sais, l'univers réel, entre guillemets. Soit on n'en a strictement plus rien à faire et ça arrive que, tu sais, en début ou en fin d'arc et encore. Tu vois, tu te retrouves soit dans ces trucs-là, soit tu te retrouves, comme tu nous as dit, dans un cas où c'est comme il est extérieur à l'univers, il est un peu cheaté, quoi. Tu sais, il a une surpuissance en plus.
Donc bon, à voir. Hein. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'aventurer, parce que moi, ce que je trouve dommage, si tu veux, c'est que tu sens qu'il y a du fric, quoi, quand même. Quoi. Enfin,
ah oui. C'est pas un indé, là,
ne serait-ce que la partie de déplacement des personnages, franchement, c'est super stylé. Hein. Moi, j'aimerais
la
avoir
caméra,
beaucoup plus de jeux comme ça.
Sûr.
Où t'as vraiment l'impression de jouer un super-héros, tu vois, qui se déplace et tout. Enfin,
mais tu vois,
c'est
un système comme ça dans The Witcher, par exemple, ça aurait été fou. Mais là, dans un jeu comme ça, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire? C'est un monde ouvert, c'est comment, déjà, tu vois? C'est...
Oui, c'est un monde ouvert, mais du coup, est-ce que t'as des quêtes? Si t'as des quêtes, comment ça va s'organiser? Est-ce que t'as des si t'as pas de quêtes, est-ce que t'as, comme dans Elden Ring, des donjons avec un level design un peu chiadé pour donner envie? Mais ça m'étonnerait, parce que comme t'as un personnage qui est un peu cheaté et qui peut sauter partout, le level design, t'as vite fait de le casser, en fait, avec un personnage comme ça, en fait.
Ça, pour moi, c'est un jeu à trailer, tu vois. Dans les trailers, tu vois des sorts de... Genre la bulle d'eau, on voit un sort, là, c'est une bulle d'eau suspendue dans les airs. Ça fait penser à des mangas, c'est ultra stylé. Mais moi, je pense que c'est un jeu qui peut se vendre que sur ça. À mon avis, il a pas grand chose. Surtout, t'arrives après Elden Ring, tu vas donner quoi comme monde ouvert, t'sais, c'est... Après Breath of the Wild et Elden Ring, t'arrives avec un monde ouvert.
Bon, après, on y reviendra sur Elden Ring. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga du monde ouvert, quoi, si tu veux.
Enfin, non, bien sûr.
Je
mais c'est une proposition.
On peut faire autre chose qu'Elden Ring, tu vois. En fait,
là, c'est trop stylé. Il est dans son monde ouvert, il saute et il surfe dans le vide, dans sa bulle
ouais,
d'eau. C'est ultra
c'est stylé. Hein.
Ouais, c'est
franchement,
ultra stylé.
C'est un jeu, tu le vois en trailer, il est stylé, tu vois.
Voilà, c'est un jeu de trailer.
Le seul truc qui m'interroge, c'est oui, c'est stylé, mais alors déjà,
et après.
Peut-être que là, tu vois, on voit le perso en fin de game cheaté, c'est possible, hein, parce que souvent c'est le cas dans les trailers. Hein. Tu sais, on te montre le personnage un peu à la fin du jeu pour te montrer les possibilités, en fait, et tu te rends compte qu'en fait, quand tu débutes le jeu, le personnage il a pas autant de possibilités parce que t'as pas débloqué tous les pouvoirs. Et si c'est le cas, tant mieux. Parce que si t'es aussi cheaté de ça dès le début, ouais, ça va être stylé, mais est-ce que ça va être intéressant? Voilà.
Ouais, l'intérêt...
Mais ouais, par contre,
de toute façon, je vais pas lui faire des procès d'intention. Le truc est pas sorti, peut-être.
C'est un vrai screenshot, par contre. Hein,
mais tu vois déjà là ce que je vois, le fait que t'es un icône avec ton prochain objectif et qui écrit 18 000 mètres. Moi, ça c'est typiquement le truc qui me saoule, tu vois.
Ah mais tu vois, spoiler alert, parce que tout le monde s'imagine qu'après Breath of the Wild et Elden Ring, tout le monde va se mettre à faire des jeux sans icônes, machin. Moi, je suis persuadé que ça va rester, hein. Mais ça n'en dépattera. Il faudra qu'on parle un jour des mondes ouverts et des conventions de mondes ouverts, parce que, à mon avis, si tu veux, ça fait partie des conventions qui vont être amenées à rester, quoi.
Bah, voilà. C'est tellement pratique, tu vois. Si tu fais pas perdre ton temps aux joueurs. Mais du coup, le monde ouvert, c'est... Enfin, s'il y a un point d'intérêt, c'est que le reste n'est pas intéressant, quoi, donc...
Exactement. Voilà. T'as tout résumé.
Donc, bon.
Bon.
Bref. Force
propose...
Pokémon, on jugera sur pièce, mais moi, j'ai peur. Enfin, j'ai peur. J'en attends rien, hein, de toute façon. Donc.
Voilà.
Mais j'ai peur d'être déçu, même si j'en attends rien. Square Enix, sur ça, ils sont forts.
Je propose... Alors... Kiltia qui dit comme FF14 des fois le combat des boss sont submergés d'effets. Oui, mais FF14 alors déjà tu peux diminuer le nombre d'effets qui s'affichent à l'écran, et puis surtout même si les combats sont submergés d'effets, il y a pas mal de codes couleurs qu'il met en place,
ouais,
au niveau
de surbrillance
du sol,
et tout. C'est
ouais,
ça,
pour
ouais.
Que ça reste lisible quand même un maximum, quoi, je trouve. Mais alors c'est vrai que des fois c'est un peu le bordel, hein, mais je trouve qu'ils ont trouvé un peu le bon compromis à ce niveau-là, du côté de FF14. En ce moment, Square Enix, ils font dans les CKI. Là, pour le coup, je vois pas ce que tu veux dire.
Je crois qu'il a raison, parce qu'ils éditent aussi des mangas, me semble-t-il. Je sais pas si dans le chat tu peux préciser ça, mais
là, comme
que
ça me dit rien.
Mais je crois que ouais, Square Enix en ce moment.
Ouais.
Enfin, j'ai déjà entendu ça. Après, il faudrait que je regarde dans le détail.
Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, Square Enix, ils font beaucoup de trucs pas bien, mais...
Ouais. En ce moment,
ouais,
c'est pas ouf.
Kitia confirme, c'est dans les mangas
et
les animés.
Mangas
et
animés, ouais, il a raison. Ouais, je suis d'accord.
Oh, ça m'étonne pas, hein.
Bah, c'est pas compliqué. Ils vont
au Japon, c'est la mode, hein.
Oui, bah voilà, c'est ça. Ils vont voir dans les modes de light novel et tout, et...
Ouais.
Tu vois.
Bon.
Après, j'ai rien contre les light novel, hein. Il y en a sûrement qui sont très bien.
On va passer sur Insomniac qui fait des trucs pas bien. Hein. Mais il n'y a pas qu'Insomniac, malheureusement, mais pour le
ouais,
coup...
Ouais, on se rappelle de l'histoire. C'est... Enfin, vas-y, je te laisse introduire.
Alors, il se trouve que récemment, on a eu une présentation à la GDC de Mark Stuart, une conférence. C'est le lead designer de Ratchet & Clank Rift Apart. Où il parlait du jeu et où il parlait des choses qu'il a fait sur le jeu, etc. Il a notamment parlé du personnage de Rivette, hein, et il a parlé bon, à la fois de certains éléments de gameplay et surtout du nom du personnage. Sauf que, il y a une personne qui s'est manifestée sur Twitter qui s'appelle Sam Mags. Qui était lead writer sur le jeu et qui a signalé que déjà les changements.
Attends, il était quoi? J'ai pas compris, excuse-moi.
Lead writer.
Ah, d'accord.
Donc,
donc celui qui écrit
alors,
et qui
je
décide.
Crois que c'est elle à corriger, mais il me semble que c'est elle d'ailleurs.
D'accord.
Qui était lead writer sur le jeu.
D'accord.
Et donc
responsable de l'écriture, quoi.
Oui, donc c'est elle, c'est ça. Elle était lead writer sur le jeu et c'est notamment elle qui est responsable du changement du nom du personnage, dont monsieur Mark Stuart s'est visiblement attribué tous les mérites durant sa conférence GDC.
Bah, sérieux.
Et plus bien pire que ça, non seulement il s'est attribué les mérites de ce changement, etc., mais en plus, il faut savoir que, certes, elle est lead writer, mais c'est pas marqué dans les crédits du jeu. Elle est dans les Special Thanks. Et pourquoi elle est dans les Special Thanks? Parce qu'elle s'est barrée pendant le développement du jeu, avant la fin du développement, en fait.
Ça rappelle une certaine histoire.
Il n'empêche que elle est à l'origine de plein d'idées sur le personnage de... Ah putain.
Je peux pas t'aider, je connais pas du tout cet univers.
Bon, de Rivette, voilà. Et il y a plein de choses que M. Stuart s'est attribuées, visiblement, qui étaient d'elle, en fait. Et ça, M. Stuart, déjà, c'est pas bien, mais en plus, c'est pour moi symptomatique d'un problème qu'on a d'une manière générale dans l'industrie
bien sûr.
Du jeu vidéo.
Bah, le 8 mars, pour la journée de la femme, on parlait de l'histoire de Sony. où des femmes se plaignaient qu'au-delà du harcèlement, elles disaient, elles, oui, les cas graves sont intolérables, le harcèlement, etc., c'est normal que ça fasse la presse. Mais elle dit le plus grave, enfin pas le plus grave, c'est pour ça que c'est toujours compliqué, mais ce qui est grave aussi, c'est que on leur vole leurs idées, quand elles sont à des postes clés, on leur coupe la parole, on dénature, et on les blâme quand quelque chose ne va pas. Donc voilà comment les femmes sont traitées dans pas mal de ces boîtes-là. Donc
bah
là,
après,
elles ont parlé chez Sony.
Soit dit en passant, c'est pour le côté, tu sais, retirer des crédits et on reconnaît pas ton travail, c'est pas exclusif aux femmes.
Non, bien sûr. Mais là, je parlais vraiment de cette histoire de personnage.
Oui.
Cette histoire de s'attribuer l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas croire que ce gars-là, c'est individuellement qu'il a commis ça et que c'est plus général.
D'une manière générale,
chose...
dans les jeux vidéo, on te dit Kojima. Oui, enfin, Kojima, vous êtes gentil, mais il fait pas tout seul. Hein, donc voilà. Hein.
Exactement.
Kojima,
plus le jeu est ambitieux,
voilà.
C'est ça. Même le jeu Patrick Parabox, que je dis, le gars, il l'a développé tout seul. Forcément qu'il a été aidé par des gens.
Les gens qui développent des jeux tout seuls aujourd'hui. Je veux dire, les bibliothèques d'assets, c'est des gens qui les ont fait.
Voilà.
Hein.
Le moteur qu'ils utilisent, il a été codé par quelqu'un, non ?
Oui, c'est ça, il a été codé par quelqu'un. Et même des fois, ces gens-là, ils engagent des artistes pour refaire les musiques, par exemple, parce qu'ils ne sont pas compétents pour faire les musiques.
Voilà.
Et c'est juste que c'est un prestataire qui paye pour faire les musiques, tu vois, en fait. C'est même sur les jeux qui sont faits, entre guillemets, tout seuls, en vérité, il n'y a pas grand monde qui l'a vraiment
fait
tout seul.
Parce que les
moteurs, etc., ça ne se code pas tout seul. Hein, donc,
voilà, ça interroge le mythe du mérite. Quelqu'un qui dit « je me suis fait tout seul », déjà, est-ce que c'est toi qui as fait pousser les légumes que tu es en train de manger ? Est-ce que c'est toi, tu vois ? Tu dépends de tout un système. Donc déjà, je me suis fait tout seul, ça veut rien dire. T'as pas cousu tes propres vêtements, t'as pas cultivé ta propre bouffe. Donc tout seul, t'es rien du tout.
Exactement. Donc bon.
Donc voilà, tordre le cou à ce discours, ça c'est fait. Maintenant.
Et puis aussi, d'une manière générale, la pratique de « Ah oui, bah tu t'es barré avant le développement et on va te retirer des crédits ou on va te mettre dans une section où, bon, t'es dessus, quoi, mais... on reconnaît pas que c'est toi qui étais lead writer, en fait, mais c'est du foutage de gueule, en fait. Enfin,
voilà.
Je suis désolé.
C'est ça. Un poste-clé comme ça. Ça me rappelle l'affaire dans Metroid Dread, là. Les développeurs qu'on fait, développeurs et développeuses qui ont fait des animations et qui sont retrouvés, vu qu'ils sont partis en cours de développement, pas crédités du tout. Tu te souviens, on en avait parlé.
Ouais, c'est ça. Bref.
Tu sais, le gars, c'est bon, il a déjà. Tu vois, c'est déjà la tête, on va dire. C'est la personnalité publique de Ratchet & Clank, il n'a pas suffisamment de fame, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il veut de plus, en fait ? Tu vois, moi, j'ai du mal à comprendre ces gens-là, vraiment.
Ouais. Et d'une manière générale, les studios, à un moment donné, il va falloir que vous compreniez que c'est pas très réglo comme pratique. Parce que, imagine, tu vois, la personne dit « Oui, j'étais lead writer sur ce jeu. » On va vérifier, on va voir les crédits, on va dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? T'étais pas lead writer, t'es dans les Special Thanks. »
Tu te rends compte, toi,
ce que ça veut dire, tu vois.
Ouais. Et encore, elle a la chance, entre grosses guillemets.
Il y a des gens qui ne sont carrément pas,
voilà,
effectivement. Ouais.
C'est ça. Entre grosses guillemets, elle a la chance d'être dans les Special Thanks.
Super, tu vois, on se contente du minimum, vraiment. Dans
parce que sinon, on efface le fait que tu aies travaillé sur le jeu, mais on garde le travail que tu as fait. Moi, c'est ça que je trouve d'un scandale absolu.
Ouais.
Donc franchement, moi, je ne comprends pas ces gens-là, qui ont déjà tout et qui en veulent plus. Honnêtement, ça m'échappe.
Bref, on va passer à la suite et on va enchaîner sur Breath of the Wild 2, n'est-ce pas ? Breath of the Wild 2 qui a été repoussé au printemps 2023. Alors, je sais pas si t'as une
honnêtement,
réaction
ça surprend
comme ça.
Qui ? Non mais honnêtement, ça surprend qui ? Tant mieux de toute façon, je préfère qu'ils prennent leur temps, comme d'habitude, repoussez vos jeux, évitez de mettre vos équipes en crunch si vous le pouvez, voilà. Franchement,
ouais,
je préfère un jeu repoussé.
C'était en fait un peu mon coup de gueule de la semaine. Je t'explique pourquoi, parce que moi j'ai vu beaucoup de réactions en mode « Ouais, c'est scandaleux, machin, Nintendo !» Écoutez les gens, ça vous a pas suffi, Cyberpunk
Ouais, tu vois, c'est truc de fou, ça.
Faut être cohérent à un moment donné, quoi, aussi. On peut pas reprocher d'un côté à un studio de pas avoir reporté son jeu et de pas l'avoir sorti propre, et de l'autre de reprocher à un autre studio de reporter son jeu pour le sortir propre, tu vois. Au bout d'un moment, quand même, hein. Alors,
mais quelque chose me tire l'épine là-dedans.
Ouais.
Ah, il m'a fait peur, j'avais oublié.
Cyberpunk n'est pas sorti sur Switch.
Hein,
donc du coup, les joueurs Nintendo ne peuvent pas savoir ce que c'est.
De quoi ? Attends,
attends, t'as dit quoi, Terre ? Parce que tu m'as fait tellement peur là. Tu m'as fait sursauter de fou, j'avais oublié. Il est arrivé en plus avec, tu sais, il est fort en volume, bah. Vas-y, excuse-moi, TH.
Cyberpunk n'est pas sorti sur Nintendo Switch.
Oui.
Du coup, les joueurs Nintendo n'ont pas encore goûté à ce désastre vidéoludique, quoi.
Ouais, bah attends, déjà qu'ils n'y arrivent pas sur PS4 alors sur Switch.
Bah ouais.
Sur Switch, ce serait une diapo, le truc.
Non,
et après, Nintendo ont toujours été habitués à sortir des jeux bien finis, donc... Voilà, les gens, en fait, ils râlent par rapport à Breath of the Wild 2, même si c'est pas son nom définitif, ils râlent par rapport à ça. Alors que en vrai, comment dire, le jeu, s'il est pas fini, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. Nintendo, ça n'amuse pas à retarder les jeux pour le plaisir de faire rager les fans, quoi. C'est que le jeu manque du temps de développement, donc la seule solution, c'est de laisser aux équipes le faire. Mais vu que Nintendo a laissé par le passé des jeux ultra bien finis quand ils sortaient dans le commerce, bah c'est sûr que tu vois, les gens, ils pensent que dès que c'est un jeu Nintendo, forcément la qualité est derrière, mais la qualité, en fait, il faut la peaufiner. Et ouais. Les gens n'ont... En fait, Nintendo, si tu veux, Nintendo, tu vois, c'est contrairement à Cyberpunk ou à Ubisoft ou à Bethesda, ils n'ont pas habitué leur public à avoir des jeux buggés ou mal finis day one, quoi. Ils ont toujours mis un point d'honneur à finir leurs jeux de manière... avec le moins de gros bugs possible, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut au moins saluer chez Nintendo.
Bon, sauf quand c'est des portages de vieux jeux, mais ça, on met ça sous le
morceau. Par exemple, ouais, je suis sûr qu'il y a des contre-exemples.
Mais c'est vrai que sur les nouveaux jeux, par contre, en général, ils font l'effort de sortir quelque chose de propre, quoi. Et je suis désolé, pour moi, bah, c'est la seule bonne attitude à avoir, en fait. Enfin, tu peux pas sortir un jeu bâclé comme ça, juste parce qu'il faut tenir une date. C'est bon, quoi, les gens.
Bah, moi, j'irais plus loin. Je pense qu'il faut supprimer les dates, faut arrêter, tu vois. Ça sort quand ça sort, c'est bon, non?
Ouais, voilà.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec toi, KFK. Mais le problème, c'est que derrière, il y a toute une campagne marketing où il y a eu des spots publicitaires qui ont été réservés pour la télévision, des panneaux à mettre, tu vois, dans les gares de métro, dans les magasins.
Ouais, mais ça aussi, on est peut-être plus obligé, hein.
Bah, en fait, t'es plus obligé, mais ça coûte quand même de l'argent dans la campagne marketing.
C'est vrai, j'entends l'argument. Mais
en fait, les seuls qui peuvent se permettre de, si tu veux, de pas annoncer de date et de lancer un jeu comme ça, tu vois, c'est quand tu sors ton jeu uniquement dématérialisé sur Steam en tant qu'indépendant. Parce qu'en fait, il faut prévoir vraiment les trucs vachement à l'avance. C'est comme le cinéma, en fait.
Ben, le ouais, cinéma, tu veux dire, les gens sur Steam, eux, c'est pareil. Des fois, ils payent des trailers et tout.
Oui, oui, mais le trailer, c'est pas grave. Tu peux toujours le changer. Mais en fait, si t'as pas ton, comment dire, par exemple, admettons, je dis un exemple tout bête, mais par exemple, pour le film Batman, tu dois réserver des affiches pour les emplacer, tu vois, pour les réserver
coût, si tu décales, ouais, je sais. Ta campagne marketing, voilà. Elle t'a coûté de l'argent, tu perds, j'entends l'argument.
Et pour le jeu vidéo, c'est exactement la même chose, parce que les jeux vidéo qui sortent en commerce, comme Zelda Breath of the Wild et tout ça, c'est des jeux où il y a généralement, quand ils font une campagne promotionnelle dans les magasins, avec des affiches à l'intérieur des boutiques et des panneaux publicitaires. Et ainsi que dans les villes en général. Par exemple, les jeux Nintendo, tu peux très souvent les voir à la télévision, dans les rues, que ce soit des panneaux d'affichage, et dans les boutiques de jeux vidéo, encore plus. Donc tout ça, ça coûte un coût, et il y a la date qui est inscrite dessus, et en général, c'est gravé sur du marbre. C'est pour ça qu'ils veulent être sûrs que la date soit officielle et bien réservée à l'avance pour commencer à préparer ça. Et,
Enfin, vas-y, finis.
Et du coup, c'est moi, je trouve ça bête, hein. Moi, je serais plus que pour que on annonce le jeu qui soit, on annonce le jeu une fois qu'il est gold, en fait, si tu veux.
Ouais. Moi c'est ce que je dis depuis des années, pour annoncer le jeu au dernier moment, quoi, tu vois.
Une fois que le jeu est gold, on annonce le jeu et on donne une date de sortie, sauf que, en général, tu vas mettre, ils veulent pas se faire ça parce qu'ils ont peur, tu vois, qu'il y a un autre jeu qui va venir concurrencer. Sur le plan technologique, c'est-à-dire que si ton jeu tu l'annonces gold et que tu le sors dans 6 mois, tu vois, en fait, ils ont peur qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver par derrière.
Et comme dit LKBD, s'il y a des annonces de gold, c'est pour les actionnaires. Oui.
Voilà, moi ce que j'allais dire, aussi. Le problème que j'ai avec votre coup de gueule, c'est que je pense pas que ce soit tant de la faute des joueurs, même si les joueurs qui gueulent ont tort, et de toute façon, les gens dépensaient votre énergie autrement, sérieux, il y a plus grave. Mais là, ouais, comme dit LKBD, c'est aussi en grande partie pour les actionnaires. Moi je pense que c'est plus pour eux que. Les jeux sont pressés d'être finis malgré qu'ils soient buggés, malgré.
Ah bah c'est ça, j'allais venir après parce que c'était le problème, c'est toujours le même problème en fait, dans le fond, c'est l'argent, quoi.
Ouais, bah là après, tu vois, t'as quand même une différence avec les actionnaires, eux, il y a aussi le temps, quoi. Ils te pressionnent Tu vois, faut sortir avant la fin de l'année fiscale, on la connaît,
mais
tu vois, la phrase.
Les actionnaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'argent.
Rentabilité rapide.
Voilà. Et ta compagnie de marketing, elle coûte quoi? Elle coûte de l'argent. Alors, parce qu'en vrai,
non, mais tout est lié. Non, mais tout est lié. Pour eux, ils veulent que ça sorte le plus tôt possible. Et
le
la vérité,
possible, le moins
c'est
cher
que
possible.
Le voilà. Et ils se soucient pas de la santé mentale et physique et morale de leurs salariés. Ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est de rentabiliser vite. C'est tout. Tu vois, et Nintendo,
et
maintenant, son côté en bourse, ils sont comme tout le monde.
Coup de gueule, pour une fois que t'as une boîte qui prend la décision, qui est la seule bonne décision à prendre, qui est de repousser le jeu, ah les gars, c'est bon, quoi. Voilà.
On devrait plutôt les saluer, en fait,
voilà.
Quand il y a un truc
fait,
comme ça.
Tu vois,
c'est plus ça, la réaction qu'il faudra avoir, ouais.
Bravo.
Voilà, parce que c'est une réaction égoïste de dire « Oh, mon vœu, je l'aurai plus tard. » Bah ouais, ton jeu, tu l'auras plus tard. Mais si ça évite à des développeurs d'être en dépression, est-ce que ça vaut pas le coup que ton jeu, tu l'aies plus tard?
Après, tu sais, je veux pas entendre l'argument qui est de dire « Ouais, moi, sur Switch, c'est un peu la disette. Il y a pas beaucoup de jeux qui m'intéressent qui sortent. » Moi, je peux l'entendre. Hein, je suis tout souvent très critique de Nintendo. Mais en même temps, les gars, ça fait
attends, sur Switch, t'as vu tous les jeux indés qui sortent cette semaine?
Non,
je suis pas d'accord avec toi.
Après, pour moi, les jeux indés, c'est pas une excuse. Parce que les jeux indés, tu les as sur PC aussi.
Oui, mais on parle dans le cas d'une personne sur Switch qui dirait « Oh, bah, je crève un peu la dalle, j'ai pas grand-chose à jouer. » Franchement, t'as vu tout ce qui sort. Rien que les indés, ils la nourrissent, la Switch. Donc
oui,
c'est pas au crédit de Nintendo, ou peut-être que si, parce que peut-être qu'ils les aident à, je sais pas, tu vois, comment ça se passe pour sortir un jeu indé sur Switch. Mais on voit que dans la semaine, il y a quand même dans ma sélection, plusieurs jeux qui...
Non mais ce que je voulais dire, c'est que, imaginons, t'es pris la Switch comme console d'appoint, tu vois, et que t'es un peu déçu de ce qui est produit dessus. Bon, admettons, ça fait combien de générations qu'il se passe la même chose, les gars, vous devriez le savoir au bout d'un
moment,
quoi.
Non mais surtout que là, cette génération, c'est différent, c'est ce que je te dis. Je trouve que par rapport, si comparé à la Wii U, ça n'a rien à voir.
Non mais surtout que
moi je suis pas
comme disait Miyamoto,
je suis pas d'accord parce que les indés qui sortent dessus moi si tu veux je suis pas forcément enfin ma Switch elle prend la poussière quoi si tu veux hein, parce que les indés j'y joue pas dessus hein, j'y joue sur mon PC hein, donc voilà vraiment
ouais c'est
comme
c'est
disait
choix,
comme disait Miyamoto ouais. Comme disait Miyamoto, il disait un jeu retardé sera peut-être bon un jour, un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais.
Bah c'est plus vrai
bon,
maintenant avec les updates
c'est plus
et tout
vrai,
c'est fini
c'est
ouais.
Plus vrai avec les je suis pas d'accord en fait parce que en fait, quand tu vas sortir ton jeu, bah les tests qui vont rester dans la presse et tout, ça sera le test du day one en fait. Donc si ton jeu il est claqué au sol à la sortie, ton métacritique il sera éclaté au sol en fait.
Mais des fois ça les empêche pas de se vendre. Regarde la GTA trilogie, claqué au sol, buggé.
Ce qui restera
vendu.
dans la pression des gens, ça restera que ton
mais
jeu mauvais.
Non, ça restera que c'est un jeu de légende. C'est
non,
tout.
Bah GTA trilogie là t'en as une bonne image toi.
Moi non,
alors,
mais je suis pas
représentatif.
Mais je suis pas représentatif, gars, de tu vois.
Bah,
le jeu, il s'est quand même vendu.
Pour avoir discuté avec des gens qui sont juste des joueurs lambda, j'étais à la trilogie, il a pas une bonne réputation. Hein, je suis désolé, hein, mais
ouais,
bon.
Mais
voilà.
Peut-être que tes gars sont pas représentatifs de tous les joueurs, tu vois. Les
ouais,
sens
ouais,
mais
si
personne n'est représentatif.
Ce que je veux dire, c'est que là, on parle dans le vent, on n'en sait rien, en fait.
On sait,
là,
on sait qu'il y a eu des ventes. On sait qu'il y a eu énormément de ventes.
Ouais, mais c'est pas parce qu'un truc se vend que il y a des trucs de merde qui se vendent, hein. Et les gens disent.
Ah, mais je dis pas que ça fait la qualité, mais en tout cas, ça fait quand même un succès commercial.
Oui, mais
un
succès
commercial,
ça
veut dire
que c'est
pas un succès. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase que...
Non, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est pas parce qu'un truc est un succès commercial que les gens qui l'ont acheté trouvent que c'est bien. Tu vois, moi, je trouve que c'est un biais qui me paraît un peu curieux, tu vois, de dire ah, il l'a acheté donc il trouve que c'est bien. Bah non, moi, ça m'est arrivé de t'acheter des trucs, je trouve que c'est de la merde. Hein, donc,
regarde, par exemple, le Battlefield 2042.
Ah oui.
Le jeu, c'était bien vendu au début.
Il s'est excellemment bien vendu. Et je suis désolé, il se fait détruire partout, quoi. Enfin,
c'est ça, parce que les gens, en fait, et en plus ça, tu peux pas reprocher aux gens d'acheter le jeu, parce qu'il y a des gens qui voient GTA trilogie, bah dire ah bah c'est cool parce que tu vois Rockstar ils ont habitué à la qualité, ils achètent le jeu, ils sont pas renseignés sur Internet, ils jouent
nous,
au jeu, ils voient que le jeu.
On se renseigne sur les Internet, on en parle sur chaque semaine,
compte de quoi,
etc.
En fait.
Bah là regarde, je tape GTA The Trilogy review sur Google, j'ai sur 423 avis 4,2 sur 5.
Non mais ça c'est Google.
Non mais c'est pour te dire. Oui mais c'est 400 avis tu vois.
Mais moi je peux faire la
tu
même chose. Je suis sûr que je vais chez JVC. Je tape GTA Trilogy. Je vais regarder les notes dans les forums. Et on verra que les notes sont pas super tu vois.
Moi je vous dis les gens ils sont
Moi je sais pas. Moi je suis sur Metacritic. C'est 0,6 hein.
Voilà tu vois c'est ce que je veux dire. C'est, enfin, c'est du pifomètre le truc en fait. Chacun peut trouver le truc
moi,
qui...
moi,
ah
dis,
ouais
voilà,
et
voilà.
C'est sur 6000 et c'est sur 6000 ratings.
Ouais, 6000 writings, 0,6.
Ouais, 0,6,
voilà.
User score.
Après, encore une fois, moi je te dis, j'ai pas.
Même la presse, elle est pas vendue apparemment 40.
Regarde, tu parlais toi, tu parlais sur Google, qui ont imprimé ta critique, et ben moi je te prends la même chose sur PS4, sur jeuxvideo.com. Le jeu, il a 14 sur 20 sur jeuxvideo.com.
Oh, 14 sur 20, t'imagines ?
Ça, c'est le 14 sur 20, c'est la note de la presse. Et avis des joueurs, 9,8, tu vois.
Quand même, c'est beaucoup, hein.
Bah, 9,8,
c'est en dessous de la moyenne.
Pour la taupe que c'est, franchement, c'est pas les 0,6 de... Tu vois que les gens sur Metacritic sont plus lucides, hein. C'est ouf.
Non, mais après, je sais pas, j'ai pas joué au jeu, je pourrais pas te dire quelle est sa...
Non, mais attends, Akash, on a vu les vidéos buggées, le jeu, il est pas fini, il est moche.
Après, il y a plein de jeux qui étaient cool et qui ont eu plein de bugs, et pourtant les jeux sont très bien notés. Regarde
sur Gamekult, le jeu il a 6 sur 10, c'est
sérieux. Regarde Skyrim, le jeu il est ultra buggé et pourtant il a des notes de ouf.
Tu vois ? De quoi ? Skyrim ? Mais Skyrim, il y a des mods, il y a des trucs. Skyrim n'est pas une escroquerie. Non, mais attends, on va être d'accord.
Pas la sortie du jeu, en fait.
Non, mais Akash, toi et moi on va essayer de se mettre d'accord.
Non, en fait, là j'ai pas trop le temps. Skyrim n'est pas une escroquerie.
Ah ouais, t'es sérieux.
Bah ouais.
Bah tant pis, tu seras pas là et du coup ce sera mon avis que je vais imposer. Tant pis pour toi, TH. Je te dis tant pis, hein. Moi sans pitié.
Non, mais
hein. Tu
pars. En fait, je te dis d'avance, je pars là et je te dis que t'as tort. Donc salut.
Bah écoute, les gens jugeront dans les urnes, monsieur.
Bon, de toute façon, on a quasiment terminé. Là, il reste encore une news. Donc tu peux. Ouais. Va-t'en en paix, TH.
Ouais, c'est vrai. Franchement, surtout si c'est pour dire des bêtises là.
Ouais. Mais juste pour te dire que. Skyrim, quand il est sorti à sa sortie, il était scandaleux. Même en faisant tous les patchs et les mises à jour, il y a encore plein de bugs. Et pourtant,
il a été sauvé par sa commu, ce jeu-là.
Il est ultra bien noté sur la presse.
Alors, je suis pas
Oblivion,
d'accord.
C'est pareil.
Alors,
attends, je finis parce que moi, je dois y aller. Oblivion, c'est pareil. après, tu vois.
Attends, parole, monsieur Terre.
Attends, tais-toi. C'est pas des mauvais jeux, en fait. Pour moi, ce n'est pas des mauvais jeux.
Tu vas me dire ça, tu vas faire continuer.
Non, parce que, en fait, comment dire, en fait, c'est pas parce qu'il y a des bugs à droite, à gauche, comme ça, qui peuvent gêner la progression. Des fois, c'est relou, mais ça n'en fait pas forcément des mauvais jeux pour
faire
un. Les
gars, on a vu les vidéos, c'était le scandale, rappelle-toi.
Mais oui, mais si je te montre.
Tu veux qu'on remette le podcast?
Attends, je te montre des vidéos sur Red Dead Redemption. Si je te montre juste les vidéos de bugs sur Red Dead, mais tu vas me dire, ouais, le jeu, c'est scandaleux.
Est-ce que tu veux qu'on remette le podcast de ce que tu de quand on parlait de GTA trilogie, de ce que tu disais dessus?
Ça scandaleux, ouais, c'est normal, frère. Que je trouve ça scandaleux comme
parce
que frère. En
fait. Donc je change pas d'avis,
il a pas la moyenne, hein, quand même. Non, enfin, je le rappelle.
Attends, je t'ai jamais dit que c'était pas scandaleux. Je t'ai toujours dit qu'un jeu buggé comme ça c'était scandaleux, et je trouve même que Skyrim et Oblivion c'est scandaleux. Donc me fais pas dire ce que j'ai pas dit, me fais pas dire l'inverse en fait. Arrêtez
d'accord.
De procéder de mauvaises intentions, monsieur.
Donc,
BHL,
donc GTA Trilogie, t'es d'accord que c'est une escroquerie?
Bah,
ou tu penses que c'est un jeu?
Je pense que c'est une escroquerie vu l'état de sortie. Après, je n'ai pas joué au jeu. Et je dis bien que s'il y a des gens qui ont apprécié les jeux Bethesda ultra buggés à la sortie, ça se trouve qu'il y a aussi les joueurs de Grand Theft Auto qui ont eu ces jeux-là et qui n'ont pas eu tous les bugs qui sont arrivés d'un coup.
Tu penses pas qu'il y a un peu une bienveillance avec GTA, tout le monde est un peu bienveillant
envers
cette série?
Oui, bien sûr, mais parce que c'est la licence qui fait que.
Cela dit, ATH soulève un point intéressant, on n'est pas tous égaux face aux bugs. Hein.
Bien sûr, ça c'est vrai.
Ça, j'ai un travail où je dois enquêter sur des bugs, etc. Et machin. Il y a bien une chose que je sais, c'est qu'il y a un truc qui peut parfaitement marcher chez quelqu'un et qui peut être tout pété chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc,
et c'est ça. Et puis même,
faut prendre ça en compte, c'est un bon exemple.
Enfin,
c'est un bon
sur exemple. PC, non, mais ça, c'est seulement sur PC, ce que tu dis.
Non, parce que même sur console aussi.
Pas forcément, parce que les conditions de déclenchement du bug, elles peuvent être spécifiques et tu les remplis pas. C'est pas spécifique au PC en fait. Hein. Dès que tu as un. Même si le hardware est fixe, si t'as une condition précise pour qu'un bug se déclenche et qu'une personne ne remplit jamais cette condition-là, il le verra pas, il te dira que le jeu est très bien.
Et puis même, il y a aussi, par exemple, maintenant avec les consoles qui ont des mi-générations, par exemple les PS4 et la PS4 Pro, tu peux avoir un problème sur une partie du hardware et pas sur l'autre. Par exemple, sur une PS4 classique, t'as pas le problème, mais sur la PS4 Pro, t'as le problème.
Ouais, ça, Sony, ils ont merdé, c'est clair.
Il y a Sony, mais Microsoft aussi, ils ont fait la même chose, en fait. Du coup, en fait, tout le monde est aujourd'hui longé à la même enseigne. C'est-à-dire que, un bug sur un jeu, ça peut être très compliqué de générer le bug. Des fois, ça peut arriver qu'un grand nombre de personnes puissent le faire, tu vois, sans forcément forcer. Mais des fois, pour reproduire un bug, même quand tu regardes du speedrun et tout, bah, c'est ultra compliqué pour reproduire ce même bug. Il y a même des bugs qui peuvent arriver ultra fréquemment. Et en général, enfin, tous les jeux qui existent sur Terre, ils sont buggés. Tu vois, y a pas de jeu qui existe sans bug. Mais il faut que le bug soit le moins visible possible.
Tu peux pas aller dans un relativisme en disant il y a quand même des différences.
Ouais, après, encore une fois, je rappelle qu'il a eu moins de la moyenne. Hein. Enfin, c'est pas non plus comme s'il avait eu 20 sur 20 sur JVC.
Non, mais bon, la presse, elle lui a mis des notes abusées.
Ouais,
quoi.
Non, mais ça, c'est. Voilà, la presse.
GameCult 6 sur 10, jeuxvideo.com 14 sur 20, j'ai vu un autre site 7 sur 10. Ils sont fous. Hein. Surtout la presse française, d'ailleurs, tiens, qui est complaisante de ouf.
Après,
là, je dis des avis des gens. Comment les gens disent ceci n'est pas.
On va pas leur faire la procès d'intention. En fait, tu sais pas ce qu'il y avait dans leur tête.
Mais tout. Ah, c'est chaud.
Bon, allez, moi, je vous fais des gros bisous à vous au chat. Et puis, bonne fin d'émission. Ciao, parce que là, j'ai un petit peu traîné en fait.
Ouais, bah merci d'avoir mis un peu de rab.
Et en tout cas, c'était en fait de vous écouter en tant que spectateur. Des fois, c'est cool. Hein. Je crois que je vais faire ça plus souvent.
Le mec, en fait, il va prendre des vacances, tu vois. Il vient de nous annoncer.
Bah, c'est vrai qu'à deux, on l'a bien tenu le podcast, ouais, c'est vrai.
Allez, ciao les gars. Salut.
Allez, ciao.
Des bisous à TH, je pense à toi.
Merci,
ouais.
Salut.
Et n'oublie pas de m'envoyer la bonne piste.
En même temps, il peut t'envoyer que la fin.
Il était en Bernardo pendant 80%. Qui se barre, tu sais, qu'il oublie d'envoyer la piste.
Ah bah,
donc,
je veux bien te croire.
Bon, allez, on va terminer sur. Bref, tout ça pour dire Breath of the Wild 2, pour revenir à la news initiale, hein, bah, il faut le repousser. Voilà, c'est bien.
Ouais, repoussez-le.
On va terminer sur une news feel good.
Allez.
I feel good. Alors, on va parler d'un petit exploit, j'ai envie de dire. Il se trouve que nous avons un joueur qui est un ancien pompier qui est paralysé. Malheureusement, il a eu un accident quand il travaillait. Et depuis 2013, bah, il est paralysé. Il ne peut bouger que sa tête. En fait. Ce monsieur a réussi à finir Elden Ring avec un appareil un peu spécial. C'est-à-dire que c'est un appareil qui lui permet de soulever... Hop, vous voyez ici. Vous voyez, il y a un appareil ici qui lui permet de souffler et de manipuler le personnage en bougeant un espèce de bec. Hein. Et en gros, en soufflant, il arrive à faire des actions. Et ce monsieur a réussi à finir Elden Ring comme ça.
Oh, c'est trop stylé.
Donc, j'ai envie de dire bravo, quoi. Hein bravo, parce que bon... alors, je réalise que là, en fait, je suis peut-être en train de potentiellement spoiler ceux qui n'ont pas fini Elden Ring, donc je vais stopper la vidéo là, en fait. Bref. donc... Bravo à ce monsieur, parce que en tout cas, déjà pour quelqu'un de valide, c'est pas forcément une mince affaire. Alors pour quelqu'un qui doit juste jouer avec sa bouche,
c'est assez extraordinaire.
Surtout que ouais. Là, je vois ce qu'il fait, enfin, il maîtrise, hein. Franchement, c'est.
Bah ouais, c'est stylé. Faut qu'il se mette au versus fighting. On va rigoler. Mais en plus, apparemment, je lisais l'article et il disait que. Il a eu des troubles de santé mentale et il avait du mal, à mon avis, à dépression et tout. Hein. Quand t'es paralysé, ça doit être super dur. Mmh. Et il a commencé à parler en public et à streamer en 2018, ce qui lui a permis de... Il disait que les applaudissements des étrangers lui donnaient de la force. Ouais. Ça lui a permis un petit peu de s'en sortir. Donc c'est une belle histoire, quoi, les jeux vidéo.
Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, pour le coup, je pense qu'il a pu le finir aussi parce qu'il a utilisé pas mal des outils que met à disposition le jeu. En fait, pour tous les joueurs. Et c'est aussi... voilà, enfin, je trouve ça intéressant que quelqu'un arrive comme ça à utiliser les outils du jeu, alors qu'il est complètement paralysé, pour le finir. Quoi. Enfin, franchement, c'est un vrai petit exploit. Quoi. Parce que même si on dit oui, le mimic qu'il utilise, enfin, pas par rapport à lui, mais on dit que ce mimic-là, il est cheaté parce que ça crée un peu double de ton personnage, etc. Bah oui, bah en attendant, le machin, il peut se faire tuer en trois coups de cuillère à peau, et derrière, si t'assures pas, bah t'es mort. Hein, donc, voilà. Donc, bravo à lui.
Ouais, bravo à lui. Puis,
parce que c'est quand même une sacrée petite affaire. Hein. Il y a plein de gens valides qui n'arrivent pas à faire ce qu'il fait. Hein, donc,
puis bravo à ceux qui fabriquent et qui imaginent, qui inventent la manette qui lui a permis de jouer. Parce qu'Elden Ring, c'est quand même pas mal de boutons. C'est quand même... Alors, peut-être qu'il n'utilisait pas tout. Hein. Mais quand même, rien que le stick gauche, taper, esquiver la caméra, ce qui est le minimum, je pense, pour t'en sortir.
Mm-hmm.
manipuler ça seulement avec ta tête et ton souffle, c'est quand même que l'appareil doit être vachement bien conçu. Et ouais, ça, il faut que ça se développe, les contrôleurs, pour permettre à des gens moins valides de pouvoir jouer. C'est ça qu'il faut développer. Quoi. Les grands développeurs, enfin les grands éditeurs, vous qui avez de l'oseille, les constructeurs et tout, c'est plutôt ça que...
D'avoir acheté une combi. Microsoft avait fait ça à une époque. Ouais, je sais pas s'ils font encore, mais...
Si, ils avaient fait une manette que tu peux complètement customiser, qui permet à plein de gens qui ont des handicaps, notamment, tu sais, les gens qui ont des mains, qui ont des formes particulières, et ben ça leur permet de jouer quand même. Et ouais, c'est pas mal du tout ce qu'ils avaient fait. Un petit peu cher, je crois, mais au moins, ça existe, quoi. Bah, voilà, leur manette, tu sais, ils ont une manette complètement customisable, je sais plus comment elle s'appelle, mais...
Bon, je sais plus.
La Elite, ou je sais plus.
Je pourrais pas te dire.
Ouais.
Bref. Sur ce, bah, c'était la dernière news de la semaine.
Et ouais.
Alors, je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, parce que ça dépend. Déjà, est-ce que Attache va finir Elden Ring ? En plus, il y a le premier tour de la présidentielle, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on va faire un podcast vraiment la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Voilà, je me pose plein de questions.
Ouais, ça va dépendre. Parce que si la nouvelle est trop déprimante.
Ouais.
Déjà, si on en fait un, je te propose qu'on commence à 20h, peut-être pas avant, parce que sinon, ça va être un peu. Enfin, moi, je sais que j'aurais du mal à me concentrer, quoi. Très honnêtement.
Bah, justement, si on commence à 20h, est-ce qu'on sera pas un peu HB ?
Bref, au moins sur le pré-show. Ouais, on vous tient au jus. Ouais, on vous tient au jus. Il n'y a pas de souci.
Allez, sur ce, on va stopper là pour l'enregistrement. Merci de nous avoir écoutés. Comme
merci
d'habitude, on vous donne rendez-vous sur notre serveur Discord. Vous pouvez trouver le lien sur notre site internet, n'est-ce pas ?
Voilà.
Gameinfo.fr. Et vous pouvez également vous adresser à nous sur Twitter, @GameInfo. Et n'oubliez pas notre Twitch, radio_GameInfo.
Voilà.
Voilà. Donc, des bisous les gens.
Prenez soin de vous.
Et à plus tard.
Et allez voter, sauvez-nous.
Allez voter, pitié.
Sauvez-nous parce que là, c'est sombre les perspectives, les gens. Faites quelque chose. Faites-nous croire en la démocratie. Allez, ciao.